À La Massif, la parole de nos sociétaires sera toujours notre meilleure publicité. Idriss, sociétaire à La Massif.
J'ai basculé mon assurance de prêt à La Massif. Vu la différence de prix, on n'a pas hésité et ils se sont occupés de toutes les démarches, c'était très simple.
Garantie sans prise de tête, Idriss. Avec la garantie emprunteur de La Massif, vous pouvez économiser 10 000 euros sur votre prêt immobilier. La Massif, c'est vous. Changement d'assurance sous conditions et économie selon profil de l'emprunteur. Contrat assuré par Apivia Massif Mutuel, mutuelle du livre 2 du Code de la Mutualité. Conditions et mentions sur massif.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC, Intégral Foot.
François Pinet.
Salut à toutes et à tous, très très heureux de vous accompagner pour ce début de soirée sur RMC avec un gros programme pour les fans de foot avant Marseille-Montpellier qu'on vous présentera, ça sera le dernier match de la journée, la 30e journée de Ligue 1 aujourd'hui, Monaco-Strasbourg dans quelques instants, le coup d'envoi de cette affiche à suivre en direct en intégralité avec Coach Courbis. Salut Roland.
Salut les amis et salut à tous.
Et oui, la Ligue des Champions en ligne de mire, Monaco 2e qui compte 3 points d'avance sur Strasbourg 6e, tout de suite direction le stade Louis II où l'on retrouve Maxime Tilliette au commentaire. Salut Maxime.
Salut François, salut Roland, bonjour tout le monde, bienvenue salut au stade Maxime. Louis II pour ce match qui s'annonce très très intéressant et très très important également.
Très important, on va parler des enjeux bien sûr, mais d'abord pour ceux qui nous rejoignent, les compositions des deux équipes Maxime avant le coup d'envoi. Oui.
Avec un changement pour Adi Hütter par rapport à l'équipe qui s'est imposée 3-0 la semaine passée face à Marseille, c'est l'entrée de Christian Maouissa qui était suspendu et qui rentre à la place de Thilo Kehrer. On a fait le choix de la vitesse, notamment pour surveiller Emmanuel Emega. Donc une défense avec dans les buts de Philippe Keun, et cette défense donc avec Vanderson, Singo, Maouissa et Caio Henrique. Au milieu du classique avec Lamine Camara et Denis Zakaria à la récupération, et sur les ailes Minamino et Akliouche. Et puis en pointe, le duo, le binôme Mbolo Biret. Côté strasbourgeois, on poursuit comme face à Nice avec cette défense à 3, et donc Nanasi qui démarre encore une fois sur le banc de touche, et donc ça nous donne Petrovic dans les buts, la défense à 3, Omo Bamidele, Sarr, Doucouré sur le poste de piston gauche, Valentine Barco, le piston droit Guéla Doué, au milieu de terrain André Santos et Habib Jara sont associés, et puis devant Diego Moreira et Dylan Bakua en soutien donc d'Emmanuel Emega.
Je vous rappelle la victoire un petit peu plus tôt, vous l'avez vécu sur RMC, du Paris Saint-Germain face au Havre, 2-1, mais on va s'intéresser, coach, à cette affiche. On l'a dit, pour la Ligue des Champions, il n'y a que 3 points d'écart entre les deux équipes, la surprenante équipe de Strasbourg, qu'on a toujours du plaisir à voir jouer, et ça va commencer dans un instant, Maxime. C'est parti.
Oui, absolument. Le coup d'envoi est donné, et à l'instant même par les Strasbourgeois, tous de bleu vêtus, les Strasbourgeois qui, pour préparer au mieux ce sprint final, se sont mis au vert. Ils sont arrivés sur la Côte d'Azur mercredi. On passait la fin de la semaine du côté de Mandelieu-la-Napoule, se sont entraînés sur les terrains de l'AS Cannes, voilà, pour se mettre dans leur bulle et bien gérer cette fin de saison. Eux qui ne sont qu'à 3 points donc cette deuxième place, même si là ce sont les Monégasques qui vont peut-être se mettre en action les premiers, notamment Marnès Akliouche sur son aile droite qui va trouver dans son dos le bon dédoublement de Vanderson qui va centrer, s'est dégagé dans un premier temps. Il y a Minamino qui fait l'effort pour permettre aux Monégasques de conserver la possession du ballon. 0-0, 40 secondes de jeu, mais ce sont déjà les Monégasques qui mettent le pied sur le cuir.
Ouais, deux belles équipes. Quand on regarde la composition d'équipe, quand on regarde aussi le dispositif, ce sont des équipes bien équilibrées, donc avec toutes les zones bien remplies. Donc c'est vrai que je serais vraiment étonné et déçu qu'on n'assiste pas à un beau match.
Ouais, j'espère qu'il va y avoir des buts, puisqu'il y en a à chaque fois que Monaco joue à domicile, 6 victoires de suite, et ils ont marqué 22 buts lors de cette série en 6 matchs, avec notamment évidemment Biret, le serial buteur qui est titulaire aujourd'hui, Maxime. Et puis en face, Strasbourg, bah, ça se passe pas mal aussi quand ils se déplacent, donc ça va être très intéressant de suivre cette rencontre. On revient te voir, Maxime, bien sûr, dès qu'il se passe quelque chose, tu nous appelles. On va faire un coucou à Jean-Luc Roy qui est avec nous. Salut Jean-Luc.
Oui, salut François, salut coach, salut, et bonjour Jean-Luc à tous.
Parce qu'on va suivre également avec toi dans cette intégrale foot de la Formule 1, puisqu'il y a en ce moment les qualifications du Grand Prix d'Arabie Saoudite, 5e manche de la saison. Ça sera demain à 19h, ça vient de débuter Jean-Luc. Les enjeux évidemment, c'est de savoir laquelle des deux McLaren sera en pole position. C'est un peu ça aujourd'hui.
Alors, il peut y avoir de ça, tu as raison, compte tenu des écarts qu'ils ont creusés lors des essais libres, hein, avec Lando Norris qui s'est montré le plus rapide pour la troisième séance, et puis la deuxième également c'était lui, et Pierre Gasly, étonnant, avec l'Alpine qui avait été le plus rapide dans la première séance. Pierre Gasly qui a été constant dans le top 10 d'ailleurs, donc on peut espérer une belle performance du pilote français d'Alpine. Mais effectivement, c'est vrai que a priori, si on prend les pôles depuis le début de la saison, ben, on a Lando Norris qui avait été le plus rapide en Australie, Oscar Piastri lui avait succédé en Chine, Verstappen donc au prix d'un effort incroyable au Japon, et Oscar Piastri qui signait sa deuxième pôle, et la deuxième pôle d'ailleurs de sa carrière à Sakhir, hein, donc la semaine dernière. Alors c'est vrai que on a l'impression que les McLaren sont intouchables, parce que l'écart creusé en essai libre, hein, et autant il y a 24 millièmes entre les deux pilotes de McLaren, mais il y a quand même 627 millièmes avant de trouver un George Russell qui lui aussi c'est un peu vraiment sorti là pour faire un tour incroyable. On sait que les murs sont très proches à Jeddah, d'ailleurs ils ont été un peu traîtres pour Yuki Tsunoda qui s'était mis lors de la deuxième séance d'essai libre dans le mur. Bon, c'est à moitié de sa faute, hein, parce qu'en fait en étudiant les images une par une, eh bien même Helmut Marko en a convenu chez Red Bull, en est convenu pour être précis, c'est que le virage est à facettes si tu préfères, donc ça n'est pas une courbe qui est constante, il y a des petites aspérités de quelques centimètres, et tu sais que les pilotes de Formule 1, mais ils jouent à quelques centimètres seulement. Exactement. Donc bon, ça n'excuse pas totalement le pilote japonais, mais il est bien reparti, et lui aussi, il a fait une performance honorable, 9e de la FP3. Donc pour le moment, l'enjeu, tu le sais bien en Q1, ouais, c'est d'être dans les 15 plus rapides.
Eh bien, on va suivre ça avec toi, Jean-Luc, bien sûr, ces qualifications et ces championnats du monde de Formule 1, passionnant depuis le début de la saison, 5e manche, donc ce week-end à Jeddah, en Arabie Saoudite. On retourne au stade Louis II avec toi, Maxime Tilliette, donc pour ce Monaco-Strasbourg alléchant, parce que effectivement on n'attendait pas Strasbourg à ce niveau-là en cette fin de saison, évidemment, mais c'est une des équipes qui nous fait le plus plaisir, une équipe jeune en plus.
Ah oui, très clairement, et qui est sur une dynamique assez exceptionnelle. On parlait des états de forme. Les Strasbourgeois viennent de remporter 4 matchs consécutifs à l'extérieur sans encaisser le moindre but, alors que les Monégasques, eux, sont aussi impériaux à domicile, hein. 6 victoires consécutives, dont les deux dernières face à Nice et Marseille, déjà des concurrents directs pour la course à l'Europe. Donc ouais, un match intéressant, même si pour le moment ce sont les Monégasques, hein, qui font la meilleure entame, qui ont globalement le pied sur le ballon et qui vont presser très haut lorsqu'ils ne l'ont pas. Là encore une fois, il y a un ballon qui est récupéré par Christian Maouissa à la 5e minute, 0-0. Et donc attention, la passe en retrait vers Philippe Koen qui a failli sortir. On a failli concéder un corner bêtement là par les Monégasques, même si le portier monégasque a fait l'effort pour éviter de concéder ce corner.
Ouais, puis c'était très important de voir un petit peu le premier ballon du gardien, parce que il sort d'un match très très bon contre Marseille avec une période avant qui était, oui, c'était un petit peu délicat.
Problème de gardien, oui, à Monaco, mais on le sait, hein, et le choix a été fait.
Ça fait des années que ça dure.
Pour la fin, depuis Subasic, hein, c'est ça.
Subasic, ouais, Subasic. Il y a eu le compte après. Bon, ouais, il y a eu Nubel. Voilà. Mais ouais, c'est vrai que Philippe Koen a été réinstallé dans le 11 de départ juste avant la trêve de mars. On va suivre tout de même. Attention, la frappe, elle était écrasée de la part de Mbolo. Ça a été contré aussitôt. Ils ont du mal à se dégager, là, les Strasbourgeois. Ils vont même envoyer le ballon directement en touche de la part d'André Santos, qui s'est pas embêté et qui a envoyé une touche que va rapidement jouer Vanderson. On parlait de Philippe Koen, qui est plutôt tranquille, hein, mis à part cette passe en retrait. Il n'a pas eu vraiment à être inquiété sur ce début de match. Vous me direz, ça fait que 5 minutes que ça a démarré, mais les Monégasques sont vraiment bien rentrés dans cette partie et monopolisent le ballon. Encore une fois, Caio Henrique côté gauche, mais c'est arrêté. Il a du mal à faire la différence, hein, face à Dylan Bakua, qui défend très bien, qui au-delà d'être là, c'est lui qui va faire faute. J'allais dire que Dylan Bakua est le joueur qui subit le plus de fautes en Ligue 1 de par sa qualité d'élimination à 1 contre 1, mais là cette fois-ci c'est lui qui sera le fautif et va concéder la faute sur Caio Henrique. Mais on est bien trop loin du but pour inquiéter Petrovic sur ce coup. Donc toujours 0-0 à la 6e minute entre Monaco et Strasbourg. Pas encore de tentative vers les gardiens de but.
Ouais, puisqu'on parle des gardiens, justement Petrovic, ça c'est un bon gardien de notre championnat, coach. Je sais pas ce que t'en penses.
Oui, donc gardien de Strasbourg. On était inquiet du côté de Strasbourg quand
Sels
est parti, et puis bon, il a été remplacé, très très bien remplacé.
Strasbourg qui a fait ses emplettes à Chelsea, puisqu'il appartient à Chelsea, vous le savez, comme le club d'ailleurs de Strasbourg, enfin le club et Chelsea appartiennent au même propriétaire. On va peut-être suivre ce qui va se passer, oui, pour Strasbourg, parce que là il y a une faute quand même assez grossière de Maouissa.
Sacrée faute. Ouais, il va bien s'en sortir, j'ai l'impression. Il n'y aura pas de carton de sortie de la part de monsieur Wattelier, parce qu'au départ il y a eu un bon travail de la part d'Ismaël Doucouré, qui sur un crochet et une passe a cassé deux lignes sur le pressing monégasque. Et derrière, oui, le tacle était très appuyé de la part de Christian Mawissa. Même si ça va aller pour le Strasbourgeois qui a pu se relever, il y a un coup franc à venir. On est allé à 40 bons mètres du but et on va le jouer à deux finalement entre Guéladoué et Ismaël Doucouré qui vient s'incorporer au milieu de terrain en phase de possession. Il est passé au duel, il résiste à Brel Embolo et va pouvoir chercher côté droit Dylan Bakou. Pourquoi pas pour la première situation à venir offensive pour les Strasbourgeois, même s'il y a Lamine Camara qui fait un énorme effort et qui va récupérer le ballon et tout de suite alerter. Oh, il y a un gros duel là entre Mika Biéret et Omo Bamidele et c'est Biéret qui s'en sort, il va profiter de l'avantage, mais la conduite de balle de Mika Biéret n'est pas très bonne. Ouais, vrai gros duel entre les deux joueurs. Pendant ce temps, il y a Akliouche à l'opposé qui s'est écroulé et qui réclame un petit quelque chose. Mais là, Roland, on a vu les intentions entre Biéret et Omo Bamidele. Ah, ça joue l'homme. Hein.
Ça fait un bon duel.
Ouais, quand ça commence comme ça peut durer toute la soirée. C'est souvent le cas avec Mika Biéret qui aime bien en plus brancher ses vis-à-vis, mais on va suivre tout de même ce corner, la 8ème minute, premier corner de la partie. Il va être pour le pied droit de Lamine Camara. Il y a Marnès Akliouche qui vient au ballon, mais c'est bien Lamine Camara qui va le frapper. C'est rentrant, c'est dans les 6 mètres et c'est dégagé de la tête par un défenseur strasbourgeois, il me semble, Mamadou Sarr, qui est monté plus haut que tout le monde, mais Vanderson récupère le ballon aussitôt. Il va centrer, celui-là est totalement raté de centre et ça peut donner un bon ballon de contre. Attention, ils sont dangereux sur ces phases de jeu avec Emega qui est lancé dans la profondeur. Il va pouvoir se présenter seul. Oh, la conduite de balle un peu hasardeuse et ça va profiter à Christian Mawissa qui va récupérer le ballon. Quelle ouverture! Je crois que c'est Diego Moreira qui, en une touche, a pu aller alerter Emmanuel Emega. On se méfiait de la vitesse de l'attaquant strasbourgeois qui s'est présenté seul.
Limite, hein.
Ouais, et en revanche, c'est sa conduite de balle qui a fait défaut, sinon il se présentait vraiment seul face à Philippe Keun.
Ah, il est très dangereux, Emega, évidemment, quand il est lancé comme ça, assez rapide. D'habitude, il est plus précis que ça, mais c'est vrai que c'est une première alerte, hein, pour Monaco, coach.
Ouais.
Faudra se méfier de cette équipe qui va très vite en contre, qui est assez précise aussi au milieu de terrain, dans les passes, justement, en profondeur. Et on va suivre peut-être aussi cette opportunité, même si bon, pour l'instant, voilà, ça temporise Maxime avec Strasbourg, ouais, qui a le ballon.
Ça temporise, mais c'est bien aussi, hein, depuis le début de la rencontre, ils n'ont pas forcément eu beaucoup le pied sur le ballon, et là, ils essaient un peu de calmer et de patiemment trouver la faille au cœur du jeu, et c'est bien fait, là, avec Habib Diarra, qui aurait pu obtenir un coup franc, mais Monsieur Ouattelier laisse jouer après ce duel entre Minamino et Habib Diarra, qui était à 25 bons mètres du but, ça aurait pu occasionner un très bon coup franc. D'où j'étais, j'avais l'impression qu'il y avait faute, mais c'est pas mon métier, et Monsieur Ouattelier a décidé que le jeu devait se poursuivre, et donc voilà, chacun a sa place, et c'est peut-être mieux comme ça aussi. En tout cas, les Monégasques auraient pu concéder un coup franc dangereux, mais ce n'est pas le cas. 10e minute, toujours 0-0. Le match est animé, mais c'est pas non plus sur un rythme incroyable.
Et puis on voit l'absence donc de Kerrer, hein. C'est Mawissa, tu l'as cité, ouais, plusieurs fois depuis le début du match. Ça, c'est Kerrer, c'est l'homme de base normalement d'Adi Hutter. Donc ça, c'est un choix, hein, tu nous dis.
Ouais, c'est un joueur polyvalent, mais qui avait déjà été sorti à la mi-temps face à Brest. Adi Hutter avait expliqué que c'était pour que notamment le Singo repasse dans l'axe de la défense pour être en 1 contre 1 dans les duels aériens sur Ludovic Ajorc. Et au final, là, ce soir, c'est on décide de mettre la vitesse de Mawissa en avant. C'est pas forcément très bon quand ton leader de défense est sorti deux fois comme ça consécutive ou presque, même s'il avait fait plutôt un bon match face à Marseille. Et là, la tentative de centre de Caillou Henrique qui a été repoussé par Omo Bamidele, le défenseur prêté par Nottingham Forest, qui est au cœur de cette défense à 3, les trois axiaux strasbourgeois. Et là, on est donc côté gauche avec Lamine Camara qui vient se proposer. Tous les joueurs de champ sont dans le camp strasbourgeois, à l'instar notamment là de Wilfried Tsingo, qui essaye d'apporter son soutien pour trouver la faille offensivement. Mais ils vont faire preuve de patience, les Monégasques, et repartir vers l'arrière. La 11e minute, toujours 0-0, et les Monégasques qui font tourner le ballon.
On rappelle que Marseille joue tout à l'heure, hein, contre Montpellier. Il s'intéresse, ouais, forcément à cette rencontre parce que les Marseillais, en cas de faux pas de Monaco, pourraient reprendre cette deuxième place. Marseille, pour l'instant, troisième. On rappelle également, pour ceux qui nous rejoignent, que c'est un vrai match en vue de la Ligue des Champions parce que Monaco est deuxième, mais avec seulement 3 points d'avance sur ce club de Strasbourg. Coach, t'es surpris, toi, par cette fin de saison strasbourgeoise?
Mais agréablement surpris. Par contre, de la façon dont joue Strasbourg, il n'y a pas non plus de secret, pas besoin de faire une enquête pour savoir que tu ne peux pas être aussi bon et jouer aussi bien sans qu'il y ait un grand entraîneur derrière ça qui n'est pas encore connu, mais je suis persuadé qu'il le sera et qu'il commence déjà à l'être. Donc cette équipe de Strasbourg, à l'image de son entraîneur, il y a les joueurs qu'il faut au poste où il faut. Alors, un peu jeune, ok, puisqu'il paraît que la moyenne, c'est 21, 22 ans, ce qui est un peu trop jeune. Un expérimenté, voire deux dans cette équipe-là, ça serait encore un plus, mais n'en demandons pas trop, c'est déjà pas mal ce que fait Strasbourg.
Et même sur le banc, c'est jeune, 40 ans, Liam Rosenior.
Ah ouais, ouais. C'est une vraie trouvaille parce que cet été mi-juillet, quand on voit que Patrick Vieira a été écarté du banc de touche en pleine préparation, on se dit oulala, ça s'annonce compliqué. C'est quand même une situation assez particulière de sortir son entraîneur alors que la saison n'a même pas débuté ou presque. Et c'est Liam Rosenior qui arrive, qu'on ne connaît pas et qui fait un gros travail. À l'image là aussi de Denis Zakaria qui a accéléré et qui a fait parler la vitesse, et Guéladoué s'est sacrifié pour couper la contre-attaque. Ça va donner un coup franc à 30 mètres plein axe face au but.
Dans l'orientation du contrôle, ouais. Donc ce contrôle orienté qui vient de faire Zakaria, je dirais que pas tous les joueurs font ce contrôle orienté.
Et ça a provoqué une faute et un carton jaune pour Doucouré.
Ouais, c'est Doucouré, c'est pas Guéladoué, c'est Doucouré en effet. Et Thiago Scuro, vous pouvez le dire sur le site RMC Sport, nous disait une des priorités de l'été sera de garder Denis Zakaria, qui montre un très très grand niveau en ce moment, auteur d'un but et d'une passe décisive face à Marseille.
On s'est aperçu donc que sans ce joueur-là, c'est très difficile.
C'est les niveaux points, c'est du simple au double. Hein. Quand il est là, c'est 2,1 points par match. Quand il n'est pas, c'est 1 point par match seulement. Le coup franc frappé au second poteau. Il y a Cliouche qui a failli la reprendre, mais le ballon a été dévié juste avant. Ça l'a peut-être un peu surpris et le ballon finit dans les gants assez facilement de Petrovic, qui a pu se saisir du ballon. Mais c'est la première situation ou occasion, peut-on dire, même pour les Monégasques, même si là, Cliouche est un peu surpris et reprend le ballon du tibia, il me semble.
19h13 sur RMC, toujours 0-0 donc entre Monaco et Strasbourg. On suit cette rencontre de près, évidemment en direct en intégralité, vous l'avez compris, mais également de la Formule 1 au programme, Jean-Luc Roy, avec les qualifications du Grand Prix d'Arabie Saoudite.
Et oui François, encore 4 minutes.
Oui,
non,
c'est bon.
Ça réclame un pénalty.
Je me doutais. Pas de problème. Bon, écoute, il reste un peu moins de 4 minutes, du coup. Et donc, c'est Lando Norris qui est le plus rapide devant Piastri. Oh, quelle surprise. Donc, les deux McLaren. Ensuite, on trouve Verstappen et Albon. Mais ça, c'est pour l'anecdote. C'est évidemment à partir de la 15e position que c'est délicat. Et c'est Oliver Berman, le jeune Britannique de Haas, qui pour le moment tient cette 15e place devant Jack Doohan, l'Australien d'Alpine, devant Liam Lawson pour Racing Bull, Pierre Gasly seulement, alors c'est une déception pour le moment, seulement 18e. On espère qu'il va se sortir de cette zone de relégation, tu vois, j'utilise les termes de football, comme Esteban Ocon qui est actuellement 19e et Bortoleto 20e. Voilà les 5 qui resteraient sur le carreau, mais je l'ai dit, il reste 3 minutes, c'est-à-dire le temps de sortir des stands avec un train de pneus neufs, de les monter en température et de faire au moins un tour rapide au ras des murs. Et à signaler quand même, on a la bagatelle de 14 pilotes en 977 millièmes. C'est incroyable.
Eh bien, on va vivre ça évidemment avec toi, Jean-Luc. On ne ratera rien de ces qualifications. Vous restez avec nous. On revient dans un instant pour la suite de Monaco-Strasbourg et des qualifications du Grand Prix d'Arabie Saoudite. À tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Foot.
François Pinet.
Avec Roland Courbis, l'intégral foot, on suit évidemment Monaco-Strasbourg 0-0 pour l'instant, match de la 30e journée de Ligue 1. Mais on suit également avec Jean-Luc Roy les qualifications du Grand Prix d'Arabie Saoudite. C'est demain 19h, les qualifs c'est en ce moment et c'est la fin de la Q1, Jean-Luc.
Et oui François, est déjà effectivement un premier rideau est tombé, ça a été chaud pour Lewis Hamilton. Qui était en position d'être éliminé dès cette Q1. Il s'en est sorti par un deuxième effort qui l'a amené au 9e rang. Pierre Gasly également était en défi. Il était 18e, on l'a dit tout à l'heure. Il se retrouve 10e, donc ça passe. Ça passe pour Berman, pour Alonso, pour Leclerc, seulement 13e. Pour Lawson, pour Hadjar, seulement 15e. Alors, qui reste sur le carreau? Eh bien, Jack Doohan, malheureusement, l'Australien. Lance Stroll avec l'Aston Martin. Nico Hülkenberg avec la Sauber. Et Esteban Ocon, malheureusement, n'a pas amélioré. Il était pas mal dans les deux premiers secteurs. Apparemment, il a foiré son tour dans le 3e. Et puis Bortoleto, on s'y attendait un petit peu, puis tellement les Sauber sont absolument pas dans le coup. Donc on va retrouver tous les autres. Donc je répète, Stroll, Doohan, Hülkenberg, Ocon et Bortoleto restent sur le carreau avant la Q2.
Voilà, vous l'avez noté, donc Ocon éliminé en Q1 pour les Français. Il faudra suivre Gasly, Hadjar, qui eux sont passés. On va suivre tout ça avec toi, Jean-Luc Roy, et les favoris, évidemment, les McLaren notamment, on aura l'occasion d'y revenir. On retourne à Louis II avec toi, Maxime Tilliette. Toujours 0-0 entre Monaco et Strasbourg. Un match serré, hein. Il n'y a pas forcément une équipe qui prend le dessus sur l'autre. Je ne sais pas ce que tu en penses, vu du stade.
Attention tout de même là, à la tentative pour aller chercher Valentin Barco qui avait fait l'appel, mais la passe est trop appuyée, file directement en 6 mètres. Bon, les Monégasques viennent quand même encore une fois de se mettre en évidence là avec Marnes Akliouche qui a failli faire mouche sur une frappe en repiquant sur son pied gauche. Il a cherché le premier poteau.
Mais c'est pas des occasions très franches quoi, pour l'instant.
C'est pas non plus Petrovic fait l'arrêt, la repousse, mais elle n'est pas non plus, bien qu'elle soit déviée, elle n'est pas non plus très difficile à sortir du cadre. Et là, ils sont en train de. Attention, Galadoué, là, il a envoyé un gros tacle. Est-ce qu'il va pas prendre un carton sur ce coup-là sur Takumi Minamino? On voit quand même que par séquence, les Strasbourgeois veulent aller presser et aller chercher très haut les Monégasques. À l'image là de ce tacle dans le camp monégasque, tacle de Galadoué qui a voulu sortir très vite pour aller intercepter en taclant, mais qui a fait faute en emmenant tout sur son passage. Et Minamino qui met un peu de temps pour se relever. Mais en effet, il n'y a pas d'équipe qui vraiment surdomine par rapport à l'autre. Et Roland, quand on est l'un des concurrents, parce qu'ils sont nombreux à suivre cette rencontre et être dans la même lutte que Monaco et Strasbourg, je pense notamment à Marseille, à Lyon, à Lille et même Nice qui n'est pas totalement décroché. Ouais. On vise quoi? On préfère un match nul, comme ça fait que deux points de distribuer ce soir?
Ah ben disons que bon, après il y a aussi les changements en cours de match, tu vois un petit peu ce que veut faire ton coach, tu peux changer aussi l'organisation, et après dans le dernier quart d'heure, c'est sûr que quel que soit le classement, tu veux toujours gagner, mais aussi ne pas perdre, parce que il y a la possibilité de terminer deuxième ou troisième, tout le monde y pense, mais c'est pas non plus une catastrophe si tu termines quatre ou cinquième. Ça fait quand même une bonne saison qui est en train de se passer pour Monaco et pour Strasbourg. Donc c'est difficile de se dire on veut à tout prix gagner. Oui. Et après tu regrettes peut-être de pas avoir pris ce petit point de nul.
Il y a un élément important là, Maxime. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça fait pas mal de cartons jaunes sortis là par l'arbitre
là,
du
c'est
match.
C'est Galadoué qui vient de le recevoir alors qu'il a fait faute il y a quelques instants. Le jeu était arrêté. On a fait le test du tiroir au niveau du genou de Minamino. Ça a l'air d'aller. Il s'est relevé le japonais. Mais donc carton jaune pour Galadoué. Ismaël Doucouré en a pris un également à côté monégasque. Caio Henrique. Ça montre qu'il y a de l'engagement du côté de Louis II cet après-midi pour ce Monaco Strasbourg. Mais pas encore de but. 0-0.
0-0 entre Monaco et Strasbourg, coach. Effectivement, Monaco qui, s'ils veulent conserver la deuxième place, aurait une bonne idée de l'emporter cet après-midi, soir, parce que Marseille joue contre Montpellier, un club déjà relégué tout à l'heure.
Ouais, mais si tu veux la deuxième et la troisième, il faut la mettre dans le même sac.
Oui.
Donc si Monaco arrive à battre Strasbourg, là, je dirais pas que c'est pratiquement acquis, mais ça serait un très très grand pas sur la deuxième et troisième place.
Exactement, donc un match important.
Monaco qui après cela ira au Havre puis à Saint-Etienne avant de recevoir Lyon et de finir par un déplacement à Lens. Donc des équipes qui vont se battre pour le maintien. Lyon qui va se battre sans doute également pour la Ligue des Champions. Ça peut être une confrontation directe à deux journées de la fin qui sera prépondérante, et puis un déplacement à Bollard, jamais simple pour finir. Et attention tout de même là, Vanderson qui accélère la belle ouverture pour trouver au point de pénalty. Oh, le cafouillage dans les 6 mètres, et c'est Petrovic qui va prendre le ballon dans le ruck là, comme qui dirait.
Oui, c'est ça.
Devant Denis Zakaria, ouais, le bon déblayage pour se saisir du ballon de la part de. Alors qu'au départ, tu le disais, Roland, très bon travail de Brel Embolo, le contrôle de jeu et l'orientation pour aller ouvrir dans la profondeur, lancer parfaitement Vanderson qui s'était bien emmené le ballon, qui a voulu centrer au premier poteau, et c'est finalement Petrovic qui s'est saisi du ballon malgré la présence encore une fois dans la surface de Denis Zakaria.
Ouais, s'il la met en retrait, alors c'est pas forcément évident, Vanderson, il y avait Minamino qui traîne. Juste derrière, c'était peut-être l'option qu'il fallait pour marquer ce premier but qui lancerait cette rencontre. Pour l'instant, on sent deux équipes quand même qui se regardent, qui se jaugent, même si Monaco est plus entreprenant. On a entendu Adi Hütter dire beaucoup de bien de Strasbourg cette semaine en conférence de presse, Maxime. Donc forcément,
il sait, il connaît, il connaît les qualités de son adversaire. Il se méfie. Puis,
vu ses origines, donc c'est sûr que l'est de notre pays, ça ne le laisse pas indifférent.
Et puis il avait affronté Strasbourg en Ligue Europa également. Je crois que c'était un barrage lorsqu'il était sur le banc de l'Eintracht Francfort. Et souvent que ça avait été très compliqué et qu'il avait fallu faire un très grand match pour l'Eintracht au match retour dans leur stade en Allemagne. Il se souvient très bien, et les Strasbourgeois aussi. Hein, ça avait été un match qui avait été très très chaud. Attention là, le central de l'extérieur, c'était pas mal fait de la part de Guéladoué, mais c'est bien capté par Philippe Keun, qui n'a pas eu énormément de travail jusqu'ici, mais qui l'a bien fait. Et c'est important, c'est pas toujours le cas, et qui va pouvoir relancer sereinement la 27e 0-0. Mais on sent quand même les Strasbourgeois qui sont en mesure. Hein. On a vu 2-3 ballons en profondeur, un vers Emega qui a un petit peu loupé sa conduite de balle, sinon il s'en allait au face à face défier Philippe Keun, et puis également Bakoua qui avait été alerté dans le dos de la défense. Là, il y a eu ce centre une nouvelle fois. On sent que les Strasbourgeois sont capables de coups d'éclat. Et là encore, le grand pont exceptionnel de Diego Moreira, qui en vitesse va se défaire de Vanderson, mais il passera pas devant le capitaine. Le bon repli, la bonne couverture là cette fois-ci de Denis Zakaria. Quand c'est pas quand un Monégasque est passé, il y a souvent également le capitaine qui est là pour fermer en second rideau.
Compte tenu de l'âge de ces joueurs, de la moyenne d'âge, on est en train de regarder chaque joueur. Alors c'est sûr qu'il y a encore une marge de progression. On progresse à tout âge, mais on progresse encore plus quand on a 21 ou 22 ans. Mais je les trouve pratiquement tous intéressants. Alors évidemment, ce qu'on vient de voir dans cette interception, cette accélération, il y a évidemment une touche de balle qui a été un petit peu ratée, ce qui lui a fait perdre le ballon. Mais c'était encore un sacré contrôle. Excuse-moi, j'ai regardé bien.
Là, André Santos, là, ouais, c'est peut-être ça qui t'a fait sursauter, parce qu'André Santos, il a fait un contrôle orienté. Tout à l'heure, c'était Zakaria qui avait mis son vis-à-vis dans le vent. Là, c'est André Santos. C'était encore une fois un geste de très grande classe. Alors, on n'a pas de but pour le moment, mais on voit malgré tout de jolis gestes ici au Stade Louis II.
Le problème, absolument, coach, c'est que bon, t'es pas le seul à voir toutes les qualités chez ces joueurs de Strasbourg. Et forcément, on se dit que il y en a certains qui ne seront pas là la saison prochaine.
Oui. Mais ça c'est le problème qui est très compliqué. Et quand on parle de très compliqué,
et certains iront à Chelsea notamment peut-être.
Le club aussi, bon, c'est pas évident pour les supporters de savoir ce qui va se passer la saison prochaine. Donc tu as l'impression, quand tu es supporter de Strasbourg, ben de préparer les joueurs pour Chelsea. C'est, sur le plan de l'affection, ouais. Bon, on peut pas dire que c'est facile d'être supporter de Strasbourg.
Même s'ils ont réussi à retourner quand même certains supporters qui n'étaient pas très contents, ouais, justement de cette association. Et finalement, grâce aux bons résultats et aux jeux qu'ils montrent, c'est vrai qu'ils ont réussi à se faire quand même plaisir, en tout cas, à leurs supporters.
La banderole, non à la multipropriété, est malgré tout toujours présente, hein, là, oui, au pied du parquage et des 600 supporters.
Non, il pourrait faire une banderole avec vive une finale Champions League, Chelsea Strasbourg.
Non, mais tu rigoles, Roland, mais Chelsea peut totalement se qualifier dans la même compétition européenne que Strasbourg. Par exemple, les deux disputaient l'Europa League la saison prochaine, ce qui était le cas de Nice et de Manchester United cette saison. Et Ineos a dû prendre ses distances de l'OGC Nice. Il n'y a pas pu avoir de mouvements de joueurs. Alors il n'y en avait pas eu jusqu'ici, mais par exemple un Jean-Claire Todibo qui était en partance vers Manchester United, ça n'a pas pu se faire. Et à voir, parce que si Strasbourg ne peut pas recevoir de joueurs de Chelsea en prêt, ça va changer pas mal de choses. Donc ouais, bon, on va suivre ça aussi.
C'est un peu moins clair et un peu plus compliqué du côté de Lyon, c'est ça que tu veux dire?
En tout cas, ils vont trouver une solution, hein, si jamais les deux clubs sont en Coupe d'Europe. En général, c'est comme ça que ça se passe.
Eh ouais,
ils seront obligés d'en trouver une. On va donc toujours 0-0, vous l'avez compris, entre Monaco et Strasbourg. La Q2, c'est parti, Jean-Luc, pour les qualifications de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite en Formule 1.
Absolument, François, on sait qu'elle est plus courte, hein, évidemment. 15 minutes seulement, on est à 10 minutes 15 du terme, et déjà les premiers chronos tombent. Pierre Gasly est le plus rapide, mais attention, pour le moment, voilà, à l'instant, il est délogé par Carlos Sainz avec la Williams 1:28.309. On est exactement sur le même niveau de performance que tout à l'heure en Q1, ce qui est normal, tu me diras, mais la piste est censée s'améliorer un petit peu, et je pense que tout à l'heure en Q3, évidemment, on va descendre les temps. Voilà, Piastri, là c'est du sérieux, 1:27.690, donc dans les 1:27, c'est là qu'on devrait trouver la pole, hein, tout à l'heure. Il précède donc Carlos Sainz de 6 dixièmes, Pierre Gasly est 3e, Albon, mais attention à la performance de Verstappen une nouvelle fois, qui est le plus rapide rapide dans le premier secteur et qui est très bon dans le deuxième également. Encore une fois, c'est anecdotique puisque le jeu, c'est surtout de ne pas se retrouver dans les 5 dernières places, au-delà du top 10, donc de la 10e position, qui va tomber d'ailleurs dans un instant. Voilà, c'est fait. Verstappen, l'homme le plus rapide, 1:27.529, 161 millième devant Piastri, et le dixième et dernier à voir s'il y a un temps d'ailleurs, c'est Alonso, mais on attend les chronos de Norris, Tsunoda, Hamilton, Leclerc et Lawson pour le moment.
Très bien, merci Jean-Luc, on revient dans un instant bien sûr pour la suite de cette Q2, les qualifications du Grand Prix d'Arabie Saoudite en Formule 1, et vous ne raterez rien de Monaco-Strasbourg, 0-0 pour l'instant à Louis II entre les deux équipes. À tout de suite sur RMC, restez avec nous.
RMC, Intégral Foot.
François Pinet.
Il est 19h33. Merci d'écouter RMC pour suivre la 30e journée de Ligue 1. On vous rappelle la victoire tout à l'heure du Paris Saint-Germain face au Havre, 2-1. On y reviendra évidemment dans l'after avec Thibaut Jean-Grand. On viendra aussi sur ce Monaco-Strasbourg pour l'instant 0-0. Et puis on suit aussi les qualifications du Grand Prix d'Arabie Saoudite pour la Formule 1. Dans un instant, la suite et la fin de la Q2. Mais d'abord, un détour par Louis II avec Maxime Tilliette, avec coach Courbis, dans un match où on est en manque un petit peu d'occasion, ouais. Maxime, hein, 0-0.
Et puis là, le rythme
l'instant.
Va encore être le jeu est encore arrêté parce que Habib Jarra est au sol et on fait rentrer les soigneurs. Il se plaint de la cheville et reste au sol après un duel avec Caio Henrique et Lamine Camara. En tout cas, 11 minutes à jouer, 0-0. On a vu une frappe de Dylan Bakwa qui a fait enchaînement sur son côté droit, virgule, décalage, frappe. Et bon, là, finalement, l'action ne comptera pas puisqu'il y avait un hors-jeu au départ d'Emmanuel Emega. Mais depuis quelques minutes, malgré tout, les Monégasques ont un peu plus de mal à s'approcher de la surface de réparation de Petrovic, et ce sont plutôt les Strasbourgeois qui finissent bien cette première période.
C'est pas une excuse,
mais toujours 0-0.
Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de vent, sur les images que je vois là. Je sais pas
totalement,
si ça embête les joueurs.
Je tiens très fortement mes feuilles de match également pour éviter qu'elles s'envolent.
Mais toi, t'as du gel, donc t'as aucun problème pour le reste.
Non, j'ai mis la casquette pour pas
être
pour tout te dire.
Attention.
Voilà, petit détail à Louis II. Non, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de vent. Il fait pas forcément très chaud. D'ailleurs, les Strasbourgeois sont venus se préparer du côté de Mandelieu et de Cannes cette semaine et espérer avoir du beau temps, ce qui n'a pas vraiment été le cas. Mis à part vendredi, sinon ils ont eu un temps irlandais, comme le disait Omo Bamidele sur les réseaux sociaux de Strasbourg. Et donc, ce soir, c'est le vent qui souffle sur le stade Louis II et qui souffle dans le dos des Strasbourgeois. C'est peut-être pour ça qu'ils finissent mieux cette première période, même si là ce sont désormais les Monégasques qui ont remis le pied sur le ballon à 10 minutes de la mi-temps, toujours 0-0 donc entre Monaco et Strasbourg.
Et puis ça va peut-être évidemment bouger avec notamment les talents qui sont sur le banc. J'ai aperçu Golovin qui donc n'est plus un titulaire indiscutable, hein. Tu nous confirmes au milieu de terrain.
C'est compliqué pour lui, hein. Il a fait une entrée, il n'est pas rentré face à Marseille. Il est rentré en jeu face à Brest, mais voilà, il est coupable d'un, on va dire, un replacement défensif un peu trop léger qui a amené au deuxième but brestois. Même si la surveille du coin de l'œil, l'action avec Vanderson côté droit qui va retourner vers l'arrière et notamment son capitaine Zakaria. Donc Golovin qui est sur le banc malgré tout.
Aussi.
Ben Seguir qui est là aussi, mais pareil, au niveau de la concurrence, ils sont quand même bien derrière à Kliouche et Minamino qui sont lancés pour finir fort cette saison. On s'est bien fait là dans l'intervalle pour trouver Denis Zakaria. Le contrôle est un peu long et derrière, attention, ça peut engendrer les cartons bêtes. Lorsque la conduite de balle, la première touche n'est pas bonne, on se jette pour tacler et il va faire faute Denis Zakaria. De la sorte, on peut malencontreusement se retrouver avec la semelle sur le tibia de son vis-à-vis. Ça va, là, il est passé à côté. Tant mieux pour Zakaria et tant mieux pour Moreira qui s'en sortent tous les de bien et indemne et sans carton jaune, et donc toujours 0-0 entre Monaco et Strasbourg. Et en effet, donc il y a de la qualité, il y a ces Kumara aussi, Félix Le Maréchal côté strasbourgeois, et puis évidemment Nanasi qui encore une fois est sur le banc de touche, hein. Ça fait partie des choix de Liam Rosenior, ça avait déjà été le cas notamment face à Nice le week-end dernier.
Il y a du talent sur le banc, on espère que ça va dérider un petit peu cette rencontre. Pour l'instant toujours 0-0, il reste encore du temps évidemment et on ne ratera rien de ce match à fort enjeu, hein, en vue de la Ligue.
Attention,
des champions.
Le ballon qui traîne, qui revient à la surface, le centre en retrait vers Mbolo qui glisse ou qui s'est laissé tomber. En tout cas, rien d'indiqué de la part de monsieur Wattelier. Le ballon a été dégagé en catastrophe par la défense et s'est joué rapidement la touche par les Monégasques qui vont s'empresser d'aller chercher sur l'aile gauche, mais ça a bien coulissé le bon repli défensif notamment de Bakwa et Guéladoué, et les Monégasques qui retournent vers l'arrière. Pardon pour l'interruption, mais il y avait danger dans la surface de réparation.
Et ça m'amène à une question pour coach. Alors, on n'a pas encore revu les images, mais est-ce que c'est Biret qui se trompe dans son geste ou Mbolo qui est mal placé?
Difficile à dire, mais bon, il fait un choix, Mbolo. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas un une troisième solution.
Un autre joueur de Monaco.
Un petit peu plus en retrait. Il en manque un, le joueur.
Ouais, on va peut-être suivre cette contre-attaque strasbourgeoise avec toi, Maxime.
Ouais, les sorties de balles sont plutôt intéressantes. En effet, ça a créé un décalage assez vite, même si derrière le renversement de Barco est intercepté par Caio Henrique. Le jeu se poursuit alors que Habib Diarra, non, il y a un strasbourgeois qui reste au sol. Non, et le jeu va s'arrêter. On va revenir à la faute. Et il y aura un nouveau carton jaune. Et il y aura un nouveau carton jaune. C'est Emega qui est au sol et c'est Lamine Camara.
Il y a plus de cartons que d'occasion dans cette première période.
Au niveau des cartons jaunes, ça fait deux partout, deux de chaque côté. Et au tableau d'affichage, zéro but de chaque côté.
On va pouvoir faire un point sur ce qui se passe en Q2.
On aurait préféré l'inverse.
Parce qu'il se passe toujours des choses en Formule 1 avec Jean-Luc Croix, même si c'est souvent des petites voitures oranges qui sont devant pour le début de cette saison. Mais on va suivre ça quand même, cette Q2 avec toi, qualification du Grand Prix d'Arabie Saoudite que l'on suivra demain à partir de 19h sur RMC, Jean-Luc.
Absolument, François. On est à 1 minute 33 exactement du terme de cette Q2. Et donc l'enjeu, une nouvelle fois, c'est de se trouver dans le top 10, dans les 10 premiers pour le moment. C'est Kimi Antonelli, le jeune pilote italien de Mercedes qui détient ce 10e temps magique, 1:28.314. Seulement, tout le monde est reparti à l'assaut. Là, naturellement, on a chaussé le 2e train de pneumatique slick de cette Q2 et c'est reparti. Évidemment, on est en amélioration, notamment pour Isaac Hadjar qui, pour le moment, en a besoin parce qu'il est 13e et non qualifié donc pour la Q3. Isaac Hadjar qui vient de signer un temps de 32 secondes et 209 millièmes dans le premier secteur. C'est pas mal. C'est moins bien que son équipier Lawson qui, lui, n'a pas de temps pour le moment parce que tout à l'heure, il a dû avorter sa première tentative. Il est en 32 et 87 millièmes dans le premier secteur, donc on devrait passer normalement dans le top 10, mais attention à Lewis Hamilton. Hamilton est maintenant 10e, donc à la limite lui aussi de ne pas franchir le cap de la Q2. Hamilton, heureusement, il améliore dans le premier secteur. 31.972 pour le moment. Il va falloir attendre un petit peu naturellement. On est à 30 secondes exactement du terme de cette Q2, mais vous le savez, les pilotes qui ont entamé un tour, naturellement, ont le droit et même le devoir de le terminer. Donc, il faudra attendre 1 minute 30 à peu près après le tombé de ce drapeau à Damien marquant le terme de la Q2 pour savoir qui va rester sur le carreau. Pour le moment, c'est Hadjar. Ah oui, 11e temps. Il n'a pas amélioré assez. Ça devient un petit peu dangereux là pour Isaac Hadjar qui, à mon avis, ne passera pas en Q3. D'autant que son équipier, Liam Lawson, a amélioré. Il est devant lui. Il est 10e. Hamilton n'est que 11e. Hamilton, attention à Hamilton.
Aïe, aïe, aïe.
Ouais, il a amélioré dans le premier secteur. Il est un peu en retrait dans le deuxième. Oui, là pour le moment, il s'en sort. Il est 8e. Mais attention, il faut que personne améliore derrière, évidemment, et ne fasse mieux que les 1 minute 28 secondes et 102 millièmes. Et si, Gasly à l'instant fait mieux. Il est 8e. Hamilton 9e. Albon 10e pour le moment. Qui peut améliorer encore dans les temps? Eh bien, oui, il y a Alonso. Alonso peut améliorer. Il a amélioré dans le premier secteur. Il a amélioré dans le deuxième secteur. Alonso qui est 15e pour le moment et donc relégué. Qui va en terminer, non, 13e. Hamilton passe, il est 9e pour le moment devant Albon. Tsunoda, lui également, est en amélioration. Il devrait s'en sortir. Oui, Tsunoda, 7e temps à l'instant. Ça veut dire qu'Hamilton est repoussé au 10e rang. Ouh là là, c'est chaud bouillant. Là. Est-ce que ça va passer pour Hamilton? Je regarde qui est en amélioration. Oui, je pense que ça devrait passer maintenant, puisque je vois que Albon, on a terminé. Albon est 11e. Lawson n'a pas amélioré dans le premier secteur. Il est 12e. Alonso vient de terminer son tour, il est 13e. Isaac Hadjar est 14e, il n'a pas amélioré non plus. Et derrière, eh bien, il y a Oli Burman. Voilà, on va donc retrouver Lando Norris, qui a été l'homme le plus rapide en 1:27.481, repoussant Verstappen. Il est sorti encore de sa boîte au bon moment, Verstappen. 48 millièmes seulement d'écart. Derrière, Piastri est à 64 millièmes. Tu te rends compte? On a trois pilotes en moins d'un dixième de seconde. Russell, 4e. Antonelli, 5e. Leclerc avec la Ferrari, 6e. Tsunoda 7e, Sainz 8e, Gasly 9e et Hamilton 10e. C'est passé fin, mais ça passe pour Hamilton.
Et ben voilà, on a vécu avec toi à la fin de cette Q2 et donc le français Isaac Hadjar éliminé en Q2, on l'a dit et on l'a vécu avec toi. Et il reste évidemment les favoris qui sont là pour cette Q3 que l'on va vivre en direct et en intégralité avec toi, Jean-Luc. La fin de cette première période hachée pour l'instant entre Monaco et Strasbourg. On n'a pas eu beaucoup d'occasions. S'enflammer, Maxime.
Ouais, là c'est pas mal, là ça finit un petit peu mieux cette première période avec encore une fois Bakua qui a récupéré un ballon très haut, hein, quasiment sur la ligne de sortie de but dans les pieds de Christian Mawissa. Derrière, la passe est arrivée dans le dos d'Emega, et puis juste avant il y a eu Dylan Bakua qui a forcé en quelque sorte Philippe Keun à faire un arrêt au premier poteau. Bakua qui a voulu centrer, ça a été dévié un tout petit peu de la part de Caio Henrique, et Philippe Keun a dû claquer ce ballon en corner en couvrant bien, en fermant bien son premier poteau. Il a failli être surpris sur ce centre qui se dirigeait dans le premier poteau. Les Strasbourgeois qui finissent bien là, avec encore une fois un ballon récupéré par Doucouré qui va pouvoir trouver Emega, et on va repartir vers l'arrière. Reste 2 minutes, toujours 0-0, mais les Strasbourgeois ont contraint Philippe Keun à un premier arrêt. On va suivre tout de même le pressing là des Monégasques avec Brelem Bolo, mais ils s'en sortent bien, les Strasbourgeois. C'est bien fait avec au cœur du jeu Doucouré, même s'il y a beaucoup de monde dans la densité, ils vont réussir à s'en sortir. Aller chercher côté gauche Barco qui va essayer d'ouvrir vers Diego Moreira, et la passe n'est pas ajustée, et c'est Vanderson qui va se saisir du ballon mais le rendre aussitôt en dégageant dans les pieds des Strasbourgeois. 2 minutes à jouer, toujours 0-0 entre Monaco et Strasbourg.
Ouais, qu'est-ce que tu
dans cette première période
pressens, coach? Tu as souvent des bons pressentiments, ouais, sur ce que tu as vu sur la première période là des deux équipes. On a vu Monaco peut-être plus dangereux que Strasbourg, ça c'est clair.
Ouais.
Mais ils se débrouillent bien, les Strasbourgeois, là, dès qu'ils ont le ballon. Hein.
J'attends quand même de voir les deux changements importants pour chaque équipe. Alors, je ne sais pas s'ils vont avoir lieu tout de suite.
Ça sera peut-être à l'heure de jeu,
ou la 60e.
Comme souvent, ouais.
Mais bon, il y a quand même aussi 2-3 joueurs très intéressants sur le banc, et c'est possible que ces joueurs-là puissent faire la différence.
On va vois pas un 5-4 cette fois-ci.
Non, promis.
Non. Attention tout de même, la glissade là, d'Habib Diarra. Derrière, la déviation d'Embolo un peu dans le dos de Lamine Camara qui essaye d'accélérer, mais ça commence à être dur physiquement. Hein. Ça accompagne un petit peu moins les efforts et il s'en va tout seul. Il gagne du terrain, Lamine Camara, mais derrière le bon retour encore une fois d'Ismaël Doucouré. Et derrière la glissade, il y a un gros duel encore entre Mawissa et Emega. Emega qui demande à l'arbitre assistant, monsieur Wattelier, de surveiller. Ouais, il s'énerve aussi sur son banc de touche, Liam Rosenior. Et monsieur Wattelier va aller lui parler. Il a dû se passer quelque chose loin du ballon pour que Emmanuel et Méga, ouais, ils vont être appelés à l'ordre tous les deux. Il y a de la nervosité, on l'a dit, il y a beaucoup d'enjeux sur cette rencontre. Déjà tout à l'heure, monsieur Wattelier a dû calmer les choses entre Brelem Bolo et Ismaël Doucouré. Cette fois-ci, c'est entre Mawissa et Méga. Ouais, il fait signe monsieur Wattelier que tout est surveillé. Il n'a pas les yeux partout, mais il y a la vidéo qui peut l'aider en cas de mauvais geste. En tout cas, ça nous donne une première mi-temps finalement assez fermée, hein, où les deux équipes se neutralisent, et reste 5 secondes, on aura 2 minutes de temps additionnel pour pourquoi pas vibrer sur cette fin de première période, toujours 0-0.
On a plus vu l'arbitre de cette rencontre, monsieur Wattelier, sur cette première période. C'est jamais vraiment bon signe, hein, mais bon, voilà, il n'a pas fait d'erreur, évidemment, mais là, ça discute beaucoup entre les joueurs, avec l'entraîneur. Peut-être qu'ils perdent un petit peu d'influx, là, en parlant beaucoup à l'arbitre.
Et puis, parfois, dans ce genre de rencontre un peu fermée, la solution peut venir d'un coup de pied arrêté. On a vu tout à l'heure sur un corner strasbourgeois qu'avec le vent, c'était pas évident d'amener du danger. Alors, il faut savoir jauger le vent, c'est pas toujours évident. Et le dernier corner strasbourgeois n'a vraiment rien donné et a filé au sixième poteau sans quasiment être entré sur le terrain.
Mais il y a souvent du vent comme ça à Monaco. Moi, je connais pas bien
pas
la région. Hein,
honnêtement,
quand même, là,
pas à ce point. Alors, il y a pas, je pense pas qu'il y ait 150 km/h non plus.
On appelle ça le Mistral aussi à Monaco ou pas, non?
À Marseille, oui, c'est le Mistral.
Oui, mais là, c'est quoi ce vent, là? On ne sait pas.
Disons que bon, c'est bizarre. Des fois, on t'annonce aussi du sable qui arrive du Sahara.
Oui. Bon, on n'a pas encore trempé de sable pour l'instant.
On est dans une époque compliquée.
Oui. En tout cas, pas de sable ici. Bon tacle de la part de Valentin Barco. Duel entre Argentin et Brésilien, hein, sur l'aile droite avec Vanderson. Allez, 30 secondes à jouer. 30 bonnes secondes dans cette fin de première période. Et c'est vrai que le stade est un peu ouvert. Donc le vent s'engouffre assez facilement ici dans le stade Louis II. En plus, on est au pied du rocher. Donc le vent vient en notre direction. Et le ballon, il est pas mal là pour aller trouver. Quel arrêt, ça va être suivi par Pierre qui va la mettre au fond. La belle ouverture de Lamine Camara au départ avec Caio Henrique qui se jette, Petrovic qui fait l'arrêt du bout du pied, mais il y avait évidemment en bon renard des surfaces, Fox in the box, Mika Biéret qui vient conclure au second poteau et permettre à l'AS Monaco juste avant le retour au vestiaire d'ouvrir le score 1-0 pour Monaco face à Strasbourg.
C'est ce que je voulais rajouter et préciser, c'est que bon, c'est pas seulement l'ouverture du score, c'est l'ouverture du score, il n'y aura même pas le temps, je crois, d'amener le ballon au centre. Alors tu t'imagines Monaco avec la confiance qui va être
Ouh, la position de l'enjeu peut-être.
Ça va être revu.
Je crois que de l'autre côté, il y a un défenseur strasbourgeois qui couvre.
Alors, c'est Camara qui fait cette très belle ouverture là, pour Caio Henrique.
Lamine Camara, en effet.
Voilà, qui bute sur Petrovic. Très bel arrêt. Petrovic. Très bel arrêt. Et c'est bien suivi par Biret. Mais il y a quand même cette position au départ de Caio Henrique sur l'ouverture de Camara qui doit être checkée.
En jeu. Et ben voilà, ça a été rapidement décidé. Le but est refusé. 0-0. Il n'y aura pas de 13e but pour Mika Biret, l'attaquant danois.
Autant
arrivé,
c'est une verre. Regarde là-bas. Le défenseur, un peu comme en position d'arrière gauche, qui me donne l'impression quand même d'être un petit peu. Enfin, bref.
Bon. Le but a été annulé, en tout cas 0-0 toujours entre Monaco et Strasbourg. On va vivre les dernières secondes, même pas.
Ça va s'arrêter là. Tout ce qu'on vient de dire, ça tombe à l'eau. Donc sur le plan de la confiance, une bosse sur la tête pour les Strasbourgeois pour aller au vestiaire. Bon, Monaco avec le sourire. Et ben non, c'est non, pas du tout ça.
Ouais, Monaco qui aurait pu prendre provisoirement 6 points d'avance sur Strasbourg et finalement il n'en est rien, toujours 3 points d'écart entre ces deux concurrents dans la course à la Ligue des Champions et monsieur Wattelier qui laisse encore jouer un petit peu. Non, voilà, suffisait que je dise ça pour qu'il renvoie tout le monde au vestiaire. Ouais. C'est la mi-temps entre Monaco et Strasbourg, 0-0, même si Mika Biret a cru ouvrir le score mais le but a été refusé pour une position de hors-jeu au départ de Caio Henrique. 0-0 entre Monaco et Strasbourg à la pause.
Du suspense. Merci Maxime, à tout à l'heure pour la deuxième période du suspense encore donc entre Monaco et Strasbourg. Vous ne raterez rien de la deuxième période avec coach Courbis dans un instant également. La Q3, les qualifications du Grand Prix d'Arabie Saoudite, ça sera en direct avec Jean-Luc Roy. Vous ne raterez rien en restant sur RMC. À tout de suite, on revient dans moins d'une minute.
RMC Intégral Foot,
François Pinet.
Il est 19h51, merci d'écouter RMC. Coach Courbis est là pour Monaco-Strasbourg. 0-0 pour l'instant à la pause entre les deux équipes. 30e journée de Ligue 1. Ne manquez pas non plus ce soir à 21h05 le match entre Marseille et Montpellier. Ça sera à suivre en direct et en intégralité. Les compos, ça sera dans un instant. Et dans un instant également, les qualifications du Grand Prix d'Arabie Saoudite. On ne manquera rien des qualifications, même si on va d'abord se tourner vers Jean-Luc, parce qu'il se passe quelque chose là.
Absolument,
Jean-Luc Roy.
Et de très important, François, puisque c'est Lando Norris dans son tour de premier tour de qualif, et eh bien qui s'est mis dans le mur. Et eh ben voilà, une interruption au drapeau rouge. Naturellement, il va falloir du temps pour évacuer la monoplace. Et là, évidemment, comme quoi rien n'est jamais écrit en sport mécanique et en Formule 1 particulièrement. Évidemment, du côté de McLaren et du côté de Zak Brown, on fait un peu la tronche là. Ouais. On peut comprendre parce que évidemment, il était parti fort et à l'instant, Piastri avait fait claquer le premier temps et le meilleur, bien sûr, 1:27.560. Mais... ah ouais, non, mais ça tient à rien du tout, hein. Parfois, tu ne peux pas mettre une main verticale entre le mur et, ah, bah oui, là, il s'est fait déséquilibrer par le vibreur, ok. Le S très rapide, oui. Là, dans le retour. Effectivement,
ça
c'est.
Il a détruit sa roue.
Oui, bien sûr. Là, il a tapé et là, oui, je te dis, là, il va falloir au moins une bonne dizaine de minutes, je pense, pour évacuer la monoplace et ramasser les débris, hein. C'est le coup classique. Bah, tu sais, même une monoplace de Formule 1, quand tu la poses sur le vibreur et que t'as plus de roue au sol, t'as aucune direction. Donc, c'est ce qui s'est produit. Petite erreur.
Ah, qui peut avoir des grosses conséquences. Hein, pour
grosses conséquences. Bah déjà, il va se retrouver 10e des qualifs. Voilà. Hein, ça commence comme ça. Donc, il va partir de très loin.
Allez, on va suivre ça, évidemment, avec toi, Jean-Luc. On va revenir sur Monaco-Strasbourg. Donc, je vous le disais, 0-0 à la mi-temps. Et bien, justement, on va parier à la pause.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Et avec Yoann Guillet de la rédaction des Paris RMC. Salut Yoann.
Salut messieurs, salut à toutes et à tous.
Alors, on a cru au 1-0 avec ce but pour ceux qui nous rejoignent, refusé à la suite d'un hors-jeu limite, but marqué par Biret. Finalement, on en est toujours à 0-0, donc ça donne quoi au niveau des cotes ?
Ça change tout du coup. Monaco reste quand même largement favori à la mi-temps, 1,72. La victoire du club du Rocher, le nul est à 2,95. Strasbourg est à 4,70. Et messieurs, j'ai du mal à me prononcer là sur
pas facile.
Je m'attendais à quelque chose de plus décousu, on va dire. Donc je vais partir sur des buteurs multichance, toujours à la mi-temps. Soit Biret, soit Emega. C'est coté à 2,10.
D'accord. Coach.
Sans donner de vainqueur.
Ouais. C'est une. Est-ce que tu vois un vainqueur déjà dans cette partie? C'est pas forcément évident au vu de la première partie.
Je dirais deux scores. Le 1 partout et le 2-1 pour Monaco.
Le 1 partout ou 2-1 pour Monaco,
ouais.
C'est coté exactement à 4. On quadruple la mise.
Ah. Voilà. Et les buteurs là, dont te parle Johan, Biret, Emega,
Bah, Biret,
il y a un partout. Non, il y a...
si on fait un petit
Biret, t'es pas loin. Et... Paris coach, on est à 7, c'est pas mal.
Et notre Suédois.
Nanasi, le Suédois qui rentrerait en jeu.
On peut pas miser dessus. Voilà.
Nanasi, mais... décisif.
On ouais. peut pas miser dessus.
Tu peux le mettre de côté.
On le met de côté
au cas où.
D'accord, Evan, tu mets ça dans ton frigo.
Je mets ça de côté calmement et on ouvre ça dans 30 minutes.
Tu sais, il y a plein de trucs dans ton frigo, je le sais.
Ah, ça.
Bon appétit pour ceux qui nous écoutent.
C'est pas formé tout seul.
Merci, Johan. D'autres paris à trouver sur rmcsport.fr.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Alors, la suite de la soirée foot sur RMC, je vous la donne puisque dans 5 minutes maintenant, la Ligue 2 avec la 31e journée, la suite Metz face au Red Star. Match très important pour les deux équipes. Le Red Star qui lutte pour rester en Ligue 2. Metz qui lutte pour monter directement pour être dans les deux premiers et qui a vu le Paris FC s'imposer tout à l'heure face à Bastia, 1-0. Donc, obligation de s'imposer pour continuer à mettre la pression sur Lorient et le Paris FC. On retrouvera Patrick Muller pour commenter cette rencontre dès 20h. La deuxième période, je vous l'ai dit, de Monaco-Strasbourg dans quelques minutes. Et puis, Marseille-Montpellier, les compos dans quelques instants dès qu'elles tombent. On vous les donne sur RMC. Mes priorités, évidemment, à notre direct Formule 1 avec donc ce drapeau rouge lors des qualifications du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Jean-Luc, inattendu accident de Lando Norris, hein, pour ceux qui nous rejoignent, on rappelle que Lando Norris est sorti un petit peu de la sortie de piste, quoi, et il a tapé, et donc il partira en 10e position demain.
Ah oui, là c'est la très très mauvaise nouvelle pour Lando, pour plusieurs raisons. Hein. La première, c'est que sa dernière pole remontait au premier Grand Prix à Melbourne, et donc il était évidemment en recherche de performance et de confiance, puisque Oscar Piastri, le jeune Australien, son équipier chez McLaren, équipé évidemment du même matériel, le repousse dans ses limites. Je rappelle que au championnat, ils sont pas très éloignés, puisque Norris est toujours leader avant cette cinquième épreuve avec 77 points, je le répète, une seule victoire, alors qu'Oscar Piastri, lui, est remonté à 74 points, 3 points d'écart seulement, mais avec 2 victoires, dont la dernière à Bahreïn. Donc la pression sur Lando Norris, qui se reprochait d'ailleurs de ne pas avoir été suffisamment performant lors du dernier Grand Prix à Bahreïn, de ne pas avoir tiré le meilleur de sa monoplace, lui qui passe son temps à dire non, il n'a pas la meilleure monoplace du plateau, et son équipier Oscar Piastri, qui, c'est une petite pique, dit au contraire, mais si, bien sûr qu'on a la meilleure, et de loin. Donc, si tu veux, là, ça ne va pas dans le bon sens pour Lando Norris, qui partira donc 10e. Alors, je regardais là, l'an dernier, c'était pas terrible non plus pour Norris, qui était seulement qualifié 6e. Je rappelle que c'était avant les modifications qui avaient rendu les McLaren si performantes, hein, qui étaient arrivées au Grand Prix de Miami. Miami, qui sera le prochain Grand Prix au calendrier de la Formule 1, le 6e. Son équipier, Oscar Piastri, je parle de l'an dernier, était devant lui 5e, et à l'arrivée, eh bien, Piastri était 4e et Norris seulement 8e. Autant dire que ce tracé de Jeddah n'est pas un des favoris de Lando Norris. Ouais. C'est un circuit extrêmement exigeant. Encore une fois, on ne va pas l'accabler plus que ça, mais ça tombe à un assez mauvais moment. Et encore une fois, le visage des responsables de McLaren et notamment de Brown est assez évocateur. Là, on est un petit peu consterné et on discutait depuis pas mal de temps déjà, notamment évidemment dans le paddock RMC que vous pouvez retrouver évidemment dans les podcasts.
Évidemment,
voilà, on en parle beaucoup avec Nico Paolorsi et toute l'équipe. Eh bien, on disait, est-ce que Piastri va pas prendre le pas sur Norris? Eh bien là, ça peut être déjà un tournant de la saison, parce que on va voir, hein. On va pas jouer le Grand Prix avant qu'il ne soit parti seulement, mais ici la pole est un véritable avantage. Donc si jamais Oscar Piastri était en mesure de l'assurer, c'est un tracé où il est assez difficile de dépasser, il est très rapide, il y a des grandes courbes, mais on avait vu effectivement que l'an dernier, un seul arrêt, hein, aux alentours du 18e tour pour tout le monde, en rappelant qu'il y aura 50 tours de ce tracé long de 6 km 174. C'est d'ailleurs le troisième plus long tracé de l'ensemble des circuits utilisé dans le championnat du monde de Formule 1. Donc oui, on peut parler déjà d'un événement très important.
Un mini tournant en tout cas.
Un mini tournant.
On va suivre ça évidemment. Pour l'instant, donc
on est toujours
tout le monde
sous
est à l'arrêt
rouge.
Et toujours sous drapeau rouge. On va peut-être rappeler pour ceux qui nous rejoignent, les éliminés. Hein. On rappelle que Esteban Ocon lui a été éliminé dès la Q1.
Et oui. Malheureusement, en compagnie donc de Stroll avec l'Aston Martin, de Doohan, pourtant qui était pas mal à un moment. Hein, Jack Doohan, le jeune Australien d'Alpine. d'Hülkenberg et de Bortoleto, les deux hommes de chez Aston Martin, et donc Esteban, tu le disais, qui décidément, en qualif, ne trouve pas le fonctionnement. Alors, là aussi, je regardais les résultats de Bahreïn, on avait très très bien fonctionné en course avec la Haas, puisque je rappelle que Berman, parti dernier, termine dixième, pour moi, c'était quasiment l'exploit de la course, parce que remonter 10 places avec la Haas, faut quand même le faire. Et Esteban, dont nous parlions à l'instant, était parti 14, avait terminé 8. Donc, heureusement, les As vont mieux en course, à condition de pouvoir dépasser, justement. C'est ce qu'on évoquait il y a un instant.
Et puis, en Q2, donc, les autres Français, hein, Pierre Gasly, notamment Isaac Hadjar, qui partiront donc plus loin sur la grille.
Oui, alors, Pierre est passé, nouvelle fois, il se retrouve dans
Il est là, c'est une très belle performance.
Bravo, oui, il est passé fin, mais il est passé. Ouais, donc, il faut toujours être du bon côté de la barrière.
Isaac Hadjar qui sera 14e. Hein,
voilà, c'est ça, c'est absolument. Isaac Hadjar, lui, n'a pas passé le cut. Il est 14e en compagnie de Albon avec la Williams, de Liam Lawson, qui là aussi, bah, pour une fois, devant son équipier Hadjar, hein, avec la Racing Bull. Alonso, seulement 13e. Ça va vraiment pas bien pour Aston. Hadjar, nous venons de le dire. Et puis Oli Berman, qui se qualifie 15e, donc qui est devant Ocon également. Et là, on retrouve, bah, on vient de l'évoquer, bah, une seule McLaren, hein, maintenant, Oscar Piastri, qui a été le seul d'ailleurs à pouvoir, François, signer un temps avant la sortie de son équipier. Donc les autres, et ça c'est pas bon non plus, ont cramé quasiment un train de pneus et en n'ayant pas le temps de terminer leur tour alors qu'ils étaient lancés.
Donc de bonnes chances pour Piastri, hein, dans cette qualification.
Ça se présente pas mal.
Ça se présente bien, effectivement. On va vivre ça avec toi. Ces derniers instants des qualifications du Grand Prix d'Arabie Saoudite. On va vivre également, avant la reprise à Louis II de Monaco-Strasbourg, de la Ligue 2, puisque vient de débuter un match très important entre Metz et le Red Star, 31e journée. Patrick Muller est à Saint-Symphorien. Salut Patrick.
Salut François, salut coach,
salut,
bonsoir
Patrick.
À tous.
Et oui, match très important puisque, je l'ai dit tout à l'heure, le Paris FC s'est imposé face à Bastia. Donc grosse pression pour le FC Metz s'il veut rester dans la roue du Paris FC et de Lorient qui jouera lundi contre Annecy.
Ouais, effectivement François, obligation absolue pour le FC Metz de s'imposer pour rester dans cette course à l'accession directe en Ligue 2. Les Messins qui sont à 4 points depuis cette victoire, tu en as parlé, du Paris FC, 3e cette équipe de Metz, une seule défaite en 2025, mais 2 points abandonnés sur la pelouse de Caen il y a quelques semaines de cela, et c'est ce qui ternit un tout petit peu le bilan et c'est ce qui place le FC Metz dans cette position un tout petit peu inconfortable. Et puis n'oublions pas le Red Star, hein, puisque les Franciliens sont 15e avec 3 points d'avance sur Martigues qui est barragiste et 6 points d'avance sur Clermont, le premier club directement relégable. Ils ne sont pas sauvés des eaux, les joueurs de Grégory Poirier, et donc ça nous donne ce match qu'on attend avec impatience. 2 minutes ici à Saint-Symphorien, pour être tout à fait clair, il ne s'est pas passé grand chose jusqu'ici, 0-0 bien sûr, et une belle affluence à Saint-Symphorien puisque 20 000 places ont trouvé preneur. Et puis il y a ce message en tribune est du côté des supporters messins qui résume tout. Tous ensemble pour la montée, c'est ce grand message qui barre la tribune est du Stade Saint-Symphorien. Et donc voilà, tous les ingrédients sont réunis pour a priori passer une belle soirée de football. 2 minutes 30 François, et 0-0 entre Metz et le Red Star.
Merci Patrick, tu nous appelles, hein, évidemment dès qu'il se passe chose à Saint-Symphorien. Dans un instant, la reprise à Monaco de Monaco-Strasbourg, c'est reparti, hein, donc pour les pilotes de Formule 1, Jean-Luc, ça y est, plus de drapeau rouge. On est reparti pour faire le meilleur temps.
Et oui, et il reste du coup 6 minutes 45 à peine. Donc est-ce que ça va être suffisant pour faire 2 tentatives? Est-ce que compte tenu de l'adhérence, de la granulométrie de ce tracé, on peut enchaîner 2 tours extrêmement rapides sans repasser par la voie des stands? Ben là, on va le savoir. On n'a pas perdu trop de temps, hein, du côté des pilotes, notamment Sainz, Gasly et Verstappen, qui sont sur la piste pour essayer d'enregistrer une première performance dans cette Q3 et savoir où ils se placent par rapport, je le rappelle, au temps de référence 1:27.560 signé par Oscar Piastri juste avant la sortie de son équipier Lando Norris. On va leur laisser le temps de terminer le tour, François, mais ça ne saurait tarder maintenant.
Très bien, bah évidemment tu nous appelles dès qu'il se passe quelque chose. On rappelle la grosse information, donc Lando Norris qui a tapé le mur en Arabie Saoudite et qui partira 10e sur sa McLaren. Piastri pour l'instant qui est le seul à avoir fait un temps. On va suivre les temps des autres et notamment du français Pierre Gasly qui fait partie donc de ces 10 derniers hommes à vouloir aller chercher le meilleur temps. On retourne à Louis II puisque dans un instant ça va être la reprise avec Coach Courbis et Maxime Tilliette pour commenter ce Monaco-Strasbourg. On va le dire, on est un petit peu déçus du spectacle de la première période, Maxime, mais il y a du vent. Les deux équipes se craignent, on l'a dit, c'est un match à fort enjeu, donc c'est assez normal. On espère qu'il va y avoir des buts et du spectacle en deuxième période, Maxime.
Ouais, c'est l'éternel problème. Donc si justement ce but avait été accordé, d'ailleurs j'ai regardé encore les images.
C'est reparti.
Sincèrement, c'est difficile de voir un hors-jeu. Bref, ça aurait changé le match. Maintenant, on va attendre qu'une équipe ouvre le score si possible. Et là, à ce moment-là, on aura un match nettement meilleur que ce qu'on voit. Mais le match selon moi est déjà pas mal.
Il est déjà pas mal.
Ouais, la belle récupération, attention, la récupération d'Akliouche avec Mbolo dans la surface qui a voulu trouver Biarrett en une touche. Et Biarrett qui va faire faute directement à la perte de balle. 30 secondes, déjà une première récupération des Monégasques qui cette fois-ci vont évoluer avec le vent dans le dos dans cette seconde période. Je suis pas trop inquiet parce que ce matin j'ai écouté ce midi plutôt les paris RMC et Roland nous disait qu'il n'y aurait pas de 0-0. Donc on va y croire, on absolument va y croire jusqu'au bout.
Ils sont bons en plus dans les paris RMC, ils se trompent jamais, donc c'est sûr. Tu peux les écouter les yeux fermés.
Évidemment. Évidemment.
Non, mais évidemment qu'on voyait des buts sur cette rencontre. Ça serait très surprenant d'avoir un 0-0. Même si peut-être que ça pourrait arranger les deux équipes. On ne sait jamais. Au fur et à mesure du match, de l'avancée du match. On verra.
Oh, ouais. Là encore, le vent a totalement freiné le dégagement de Petrovic.
Hein, évidemment.
Déjà, ouais, ça vu, il n'y a aucun changement ni à Strasbourg ni à Monaco à la mi-temps.
Exactement, aucun changement. En revanche, les Strasbourgeois sont en train de s'échauffer, notamment Nanasi et Félix Le Maréchal, qui pourront pourquoi pas aller apporter un petit peu de vivacité et de justesse dans cette seconde période. Il y a du talent hein, sur les deux bancs, on le disait en première période. On va voir quels petits ajustements seront faits peut-être tactiquement par les coachs à la pause. Et encore une fois, Emega qui se retrouve c'était Habib Diarra qui s'est retrouvé au sol, loin du ballon. Pourtant, ça se cherche aussi à en parler des cartons jaunes en première période. Il y en a eu deux de chaque côté. Caillou, Henrique et Camara pour Monaco, Doucouré et Doué côté strasbourgeois. Attention à ne pas prendre un deuxième carton jaune qui pourrait faire basculer le match qui jusqu'ici est ouais, assez équilibré. Donc 47e 0-0.
C'est sûr ouais, que des fois, des deuxièmes cartons jaunes, ça peut être tout simplement le tournant du match.
Et là, il y en aura encore un pour Omo Bamidélé qui a projeté.
Il dégaine vite, M. Wattelier. Hein. Ouais, il sort beaucoup, ouais, beaucoup de cartons. Hein.
Trop vite ou c'est quoi? Il veut tenir son match
ouais.
Après, voilà, ça mérite peut-être pas un jaune.
Plus de difficultés pour donner le deuxième.
Quand oui.
Ouais, bah, on n'a pas vu, c'est vrai qu'il n'y a pas de très mauvais gestes qui reviennent en tête sur la première période.
Là, c'est de l'anti-jeu, voilà, oui. Bah, ça peut mériter un jaune.
Il est pris au départ par la vitesse de Minamino, il laisse traîner la jambe. Et le coup franc à venir avec Caillou Henrique ou Lamine Camara, un droitier et un gaucher pour mettre la balle dans la surface de réparation. On a fait monter les grands, Zakaria, Singo notamment, s'est frappé vers le second poteau, la bonne sortie. Et ballon capté facilement par Petrovic qui a déployé son
l'ouverture 94. Du score pour le Football Club de Metz, l'ouverture du score, il est superbe ce but de Kevin Van den Kerkhoven à la reprise d'un centre venu de la gauche de Mathieu Udol Van den Kerkhoven qui marque son deuxième but, lui qui assure l'intérim en l'absence de Kofi Kouaou blessé. Qu'est-ce qu'il est beau le centre aussi, coach, le centre de Mathieu Udol. C'est magnifique ce but de Van den Kerkhoven et l'ouverture du score précoce, 7 minutes de jeu simplement et 1-0 pour le FC Metz face au Red Star.
On va expliquer ça à Strasbourg et à Monaco, tu vas voir que ça va les réveiller.
Il revient de loin en plus Van den Kerkhoven, effectivement hein, il était pas titulaire, il profite de la suspension.
Attention Minamino dans la surface, la récupération haute et derrière Guéladoué qui va récupérer le ballon un petit peu miraculeusement dans ses 6 mètres. Encore une fois un ballon récupéré très haut hein, dans la surface de réparation adverse par les Monégasques qui vont j'ai l'impression chercher encore davantage les Strasbourgeois qu'en première période.
Allez, on va retrouver Jean-Luc Roy pour la fin des qualifications du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Là, c'est le moment très important que l'on va vivre en direct avec toi, Jean-Luc.
Et absolument, François. J'allais te dire que Verstappen avait réalisé l'exploit. Il l'a réalisé pour un millième. Il était devant Piastri avec sa McLaren, alors que Verstappen, évidemment, est toujours au volant de la Red Bull. Mais à l'instant, George Russell réalise l'exploit. 1:27.407. Il repousse Verstappen au deuxième rang à 152 millièmes. Piastri au troisième à 153. 3 millièmes. On a ensuite Antonelli pour le moment, Tsunoda et Sainz. Mais attention, tout le monde est en piste, à l'exception évidemment de Lando Norris, vous l'avez compris. Et on va voir les temps, notamment du côté des Ferrari, avec un Charles Leclerc qui a amélioré sa performance dans le premier et dans le deuxième secteur. Mais ça n'est pas suffisant. Le temps, le chrono tombe à l'instant. Eh bien, il est quatrième à 263 millièmes de George Russell. Lewis Hamilton, ah, s'en sort pas trop mal. Eh oui, mais le gap est important. Hein. Hamilton est pour le moment sixième derrière Antonelli, mais tiens-toi bien, il est à 5 dixièmes de Charles Leclerc. Ah ouais. C'est un gouffre. Hein. Là, c'est vrai qu'on commence à se poser quand même la question. Et il ne devance Yuki Tsunoda avec la Red Bull maintenant, seulement que de 3 millièmes de seconde. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Hein. Alors, on aurait Piastri pour le moment, alors que le temps officiellement imparti est terminé. Je vais regarder si d'autres pilotes sont lancés dans un tour rapide. Est-ce qu'on a eu le temps? Oui, ça peut être le cas de Sainz, hein, qui est 9e pour le moment, et Sainz qui est en amélioration dans le premier secteur, donc on va lui laisser. Voilà, il améliore également dans le deuxième, donc Carlos qui est peut-être en mesure de devancer Pierre Gasly qui est pour le moment 8e, et a priori Pierre n'aura pas le temps d'améliorer. Voilà, le seul pilote, alors que Piastri vient de boucler son dernier tour, et pour 10 millièmes de seconde, et eh bien a priori c'est Verstappen qui signerait la pole. Oh là là là, là.
Verstappen, ça c'est incroyable, incroyable. Ouais,
ouais, à l'instant, c'est tombé en rafale là. Donc Verstappen, alors je regarde vraiment les temps internes. Voilà, Sainz en a terminé également. Non, on n'a pas d'amélioration derrière. Ben voilà, je peux te donner la grille, François. Eh bien, Verstappen a signé encore un exploit absolument incroyable. 42e pole position de sa carrière de pilote de Formule 1. La deuxième de cette saison, après celle qu'il avait signée au Japon, pour 10 petits millièmes de seconde. Il devance Oscar Piastri et sa McLaren, soi-disant intouchable, et on l'a cru, hein, nous les premiers. Eh bien, Verstappen, comme toujours, sort de sa boîte au bon moment. Ah, c'est un tour de folie, là. Un tour, je le répète à chaque fois, mais un tour à la Senna, il faut le dire, parce que sa monoplace bougeait dans tous les sens. On la voyait glisser, mais vraiment, il en contrôle. Il la maîtrise absolument à quelques millimètres des murs. Verstappen, donc, sera en pôle. Il aura à ses côtés Oscar Piastri avec la McLaren. La deuxième ligne sera composée de George Russell, qui a pu penser avoir signé l'exploit à un moment. Moi aussi, j'ai cru que personne n'allait pouvoir faire mieux. Eh bien, si. Il est repoussé, Russell, avec la Mercedes, à 113 millièmes. Il aura Charles Leclerc et la première des Ferrari à ses côtés. Charles Leclerc qui est à 376 millièmes exactement de Verstappen. Antonelli a réalisé encore une belle performance et une belle qualif. Il est cinquième. Il devance Carlos Sainz, ça y est, qui a trouvé le mode d'emploi hein, maintenant, de la Williams. Il est sixième temps, troisième ligne. Lewis Hamilton partira septième avec à ses côtés Yuki Tsunoda, le japonais, qui commence lui aussi à avoir trouvé le mode d'emploi de la Red Bull, même si évidemment il est à 910 millièmes exactement de Verstappen, un hein, 9 dixièmes, c'est beaucoup, mais il est dans le top 10. Pierre Gasly également. Pierre Gasly est 9e sur la grille. Il aura à ses côtés Lando Norris qui a accidenté sa McLaren. On rappelle qu'Albon est 11e, Lawson 12e, Alonso 13e, Hadjar 14e, Berman 15e, Stroll 16e. On a ensuite Doohan 17e, Hülkenberg 18e, et puis Ocon 19e. Et Bortoleto 20e. Et ben demain, parfait, ça va être chaud. Je peux
ça va
dire.
Être chaud avec oui. Cette pole pour Max Verstappen.
Génial.
Merci beaucoup Jean-Luc. On va se régaler. En plus, tu l'as dit, hein, c'est un gros avantage d'être en pole position sur ce circuit de Jeddah.
Tu peux nous faire un coup comme au Japon.
Ça va être très intéressant de t'écouter.
Avec un arrêt normalement.
Avant ce Grand Prix, et notamment dans les grandes gueules du sport. Hein. Tu vas te réveiller un petit peu plus tôt
mais
demain matin.
Sûr, on va en parler.
Pour retrouver Jean-Christophe Drouet et toute l'équipe des grandes gueules du sport. Et puis à 19h, à ne pas manquer ce Grand Prix en direct et en intégralité. On a vu le point serré de Max Verstappen qui a réalisé un très très bon coup ce soir, et on a pu vivre ça grâce à toi Jean-Luc. Merci beaucoup en
merci
direct
François.
Sur
merci
RMC.
Bonne émission.
On retourne à Monaco, Stade Louis de Monaco contre Strasbourg. Toujours 0-0 Maxime Tilliette.
Oui, et les Monégasques qui ont plus de 60% de possession en ce début de seconde période, qui ont démarré fort comme lors de la première période, mais qui n'arrivent pas à faire la différence. 0-0 la 54e. Il y a Minamino qui a tenté une frappe en pivot qui a été légèrement déviée et facilement captée par Petrovic, mais sinon pour le moment eh bien les deux équipes se neutralisent toujours. On rappelle que Biarritz pensait avoir ouvert le score juste avant la pause, et finalement le but a été refusé pour une position de hors-jeu au départ de Caio Henrique, mais ce sont encore une fois là les Monégasques qui essayent de faire la différence en essayant de combiner, en ressortant proprement le jeu de Brel Embolo, et derrière ça permet le bon renversement de Zakaria qui va chercher côté gauche, Caio Henrique qui va lancer ses bienfaits, Lamine Camara, il a du champ, il va pouvoir s'approcher de la surface de réparation, centré du pied gauche, c'est capté par Petrovic. Il y avait au second poteau un certain Mika Biarritz qui rôdait encore une fois.
0-0 toujours entre Monaco et Strasbourg. Vous ne raterez rien de cette rencontre, évidemment, avec Maxime Tilliette. On suit également Metz face au Red Star. Le temps, le score, Patrick Muller.
C'est la 14e minute ici à Saint-Symphorien. 1-0 pour Metz face au Red Star. Ce but de Vandenkerkhoff à la 7e.
Vous restez avec nous, évidemment, dans l'intégrale foot avec Coach Courbis. Vous ne raterez rien de ces rencontres en direct et en intégralité sur RMC. À tout de suite.
RMC Intégral Foot.
François Pinet.
Il est 20h19, vous écoutez RMC et vous avez vécu en direct les qualifications du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Pour ceux qui nous rejoignent, sachez que c'est Max Verstappen qui partira en pole position demain à 19h, donc de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. À ne pas rater, ça sera avec Jean-Luc Roy au commentaire. On suit la 30e journée de Ligue 1 avec Monaco-Strasbourg, 0-0 pour l'instant. Pour voir des buts, il faut être à Saint-Symphorien puisque Metz mène 1-0 contre le Red Star. 0-0, Maxime, fais un effort.
Oui, c'est l'heure de jeu, j'essaye. Et en plus, il y a une mauvaise nouvelle pour les Strasbourgeois, la sortie de Habib Diarra, le capitaine qui semblait être gêné à la cheville, qui a cédé sa place à Félix Le Maréchal, milieu de terrain formé à l'AS Monaco, mais qui n'a eu que seulement deux petites apparitions en professionnel sous le maillot rouge et blanc. Et là, les Monégasques qui essayent de combiner, il y aura une faute sur. Non, c'est Marnès Akliouche qui a fait faute sur ce coup, et les deux joueurs restent au sol. Akliouche qui tout à l'heure a voulu lancer Minamino, sa passe a été interceptée, mais sinon Minamino s'en allait en face à face provoquer Petrovic, mais le ballon a été intercepté. Et c'est vrai qu'il nous manque ce petit frisson, hein. Alors certes le frisson on l'a parce qu'il fait pas très chaud et qu'il y a un courant d'air qui est pas forcément des plus agréables ce soir au stade Louis II, mais on aimerait frissonner aussi de par le spectacle sur la pelouse. Et pour le moment le match reste assez fermé, sans doute que l'enjeu a pris le dessus sur le jeu et qu'à l'heure de jeu on en reste donc à 0-0.
Et on espère que ça va se décanter avec ce vent qui souffle toujours très fort au stade Louis II. Un point avec toi, Patrick, sur les Messins qui pour l'instant donc reviennent à un point du Paris FC et à un point de Lorient qui a encore un match à jouer évidemment pour cette journée, la 31e. Ça sera lundi contre Annecy, Patrick.
Exactement, François, les Messins qui font le travail jusqu'ici, 21 minutes quasiment, et 1-0 donc avec pour Metz face au Red Star avec ce but de Vandenkerkhoff. Et c'est la belle histoire quand même pour ce joueur qui, on l'a dit, remplace Kofi Kouaou qui est suspendu pour 3 matchs sur ce poste de latéral droit et qui en est à 2 buts et 2 passes décisives. Donc voilà, très belle intérim assuré par ce joueur. Et tout à l'heure, je reviens en un instant, vraiment un centre assez incroyable de Mathieu Hudol sur cette ouverture du score et sur cette reprise de volée avec cette trajectoire qui sort et qui rentre. Et depuis, eh bien, les Messins sont plutôt en contrôle, même si il y a eu un ou deux oublis défensifs qui ont donné quelques petits frissons au public de Saint-Symphorien. Pour l'instant, ils gèrent leur affaire, j'ai envie de dire plutôt sereinement, 21 minutes et 1-0 pour Metz, oui, face au Red Star.
Mathieu Hudol, c'est Roberto Carlos cette saison à Saint-Symphorien. Sans exagérer, évidemment, hein, bien sûr. Allez, pour l'instant, donc, il ne se passe pas grand-chose sur les deux pelouses, donc on va en profiter pour rejoindre le Stade Vélodrome pour retrouver Jérôme Sillon et Aurélien Tirsin qui vont commenter le Marseille-Montpellier très attendu à 21h05. Salut messieurs.
Salut les amis.
François, bonsoir à toutes et à tous.
Salut les amis.
Ah oui, Marseille qui peut reprendre et qui a peut-être un œil justement sur ce qui se passe à Louis II, puisqu'ils peuvent reprendre la deuxième place en cas de victoire face à Montpellier, en cas de faux pas aussi de Monaco. Les compositions sont tombées, je crois.
Oui, et pour battre Montpellier, Amine Gouiri va revenir déjà à la pointe de l'attaque de Roberto De Zerbi. C'est peut-être la bonne nouvelle du côté du secteur offensif. Sinon, c'est la même équipe qui avait débuté à Monaco pour une défaite 3-0, donc roulée dans les cages. Ulysse Garcia est toujours titulaire dans une charnière à 3 avec Kondogbia et Amir Murillo. Luis Enrique piston droit, Quentin Merlin piston gauche, Pierre-Emile Højbjerg avec le brassard de capitaine au cœur du jeu avec Valentin Rongier, et puis donc ce trio offensif, Adrien Rabiot, Mason Greenwood et Amine Gouiri qui retrouve sa place de titulaire. Du côté de la lanterne rouge, pour éviter une 11e défaite consécutive en Ligue 1, Zoumana Camara, le nouvel entraîneur, fait 3 changements dans son 11 en comparaison de ses débuts. Luca Mincarelli va débuter en 3e défenseur central. Rabin Zigoula sera titulaire milieu de terrain et Junior Ndiaye fait de sa première titularisation avec le MHSC. Ça veut dire que Chotard est sur le banc. C'est Jordan Ferry qui est titulaire aux côtés d'Nzingula, et puis Ndolo et Saint-Luz sont reconduits dans les couloirs. Omer Agic associé donc à Mwanga et Mincarelli devant le capitaine Benjamin Lecomte, et devant pas d'Andy Delors qui n'est même pas dans le groupe, pas de Savanier non plus, Nicolas Pailly, Tanguy Koulibaly et Junior Ndiaye alignés dans cette équipe vraiment donc, new look de Montpellier.
Donc Chotard et Savanier sont sur le banc.
Chotard et Savanier sur le banc, coach.
Eh oui,
le petit Khalil Fayad également, qui avait été titulaire lors du premier match de Zoumana Camara, est sur le banc aussi.
Ok.
En tout cas, cette équipe de Montpellier est déjà reléguée et Marseille donc ne doit pas se rater face à cette équipe condamnée à la Ligue 2. D'ailleurs, messieurs, Mehdi Benatia, le directeur du football, a fait une sortie chez nos confrères de la Provence pour faire passer le message. Un message très clair, très fort pour tous les joueurs et les suiveurs de l'OM. S'il n'y a pas de Ligue des Champions, ce serait une catastrophe. C'est ça le message.
Ouais, il a donné vraiment une très très longue interview à nos confrères de la Provence qu'il a reçu pendant plusieurs heures hier au centre d'entraînement de la Commanderie. Il a parlé de défaillance mentale, il a dénoncé également il n'accepte pas le manque d'agressivité des joueurs, notamment lors de la défaite à Nice où les joueurs avaient été insultés, comparés à des rats, et il avait pas apprécié le manque de réaction. Il a parlé également de vouloir d'être ici pour enlever la médiocrité qui peut habiter certains. Il a laissé entendre également qu'il n'était pas content de l'atmosphère, qu'il comprenait pas que à l'OM, quand ça va pas sur le terrain, ben, y a des gens qui tentent de déstabiliser un petit peu le club. Donc il a essayé de taper du poing sur la table. On va voir si ça fonctionne. En tout cas, ce qu'on a appris également, c'est que il liait son destin à celui du président Pablo Longoria. En gros, quand Longoria sera parti, eh bien Mehdi Benatia partira également. Donc on a appris quand même quelques informations en lisant cet article dans La Provence ce matin.
Ouais, après, chacun a sa vision des choses, et Dieu sait que j'ai le plaisir de le connaître, Mehdi. Mais à 5 journées de la fin, sortir cet article-là avec ses explications, je ne sais pas à quoi ça sert.
Bah, peut-être parce que, alors ça, je vais me tourner vers Aurélien et Jérôme, et vers toi, coach aussi, mais peut-être parce que De Zerbi lui-même n'a plus vraiment de solution. Il a essayé.
Oh, la nouvelle frappe de Valentin Barco. Il avait déjà tenté sa chance il y a quelques secondes. C'est passé juste au-dessus de la barre de Philippe Koen, et cette fois-ci, c'est le portier monégasque qui va se coucher pour se saisir du ballon sur cette frappe croisée du piston strasbourgeois. Ça fait deux frappes consécutives à coup sur coup pour les Strasbourgeois qui reprennent un peu des couleurs dans cette seconde période. Toujours 0-0 entre Monaco et Strasbourg, la 68e, mais les Strasbourgeois retrouvent des velléités offensives dans cette seconde période.
Ouais, je disais Aurélien et Jérôme que Roberto De Zerbi, on a l'impression qu'il a tout essayé entre la calinothérapie, sortir le bâton parfois, et donc peut-être que c'est pour ça que le directeur du football monte au créneau.
Bah oui, il y a clairement un problème mental dans cette équipe. Alors la calinothérapie, elle est vraiment du bout des doigts, parce que à part dire que les joueurs marseillais ont tout donné en première période,
voilà, parfois.
Ouais, exactement. Parce que il a tapé tellement fort avec des mises aux fers, des stages un peu commando quand l'équipe n'allait pas bien du tout, de menacer de partir. D'ailleurs, il y a une petite phrase, un petit mot qui a fait beaucoup parler avant ce match. Il a dit si je suis encore là la saison prochaine, voilà, la pression est un petit peu moins forte que quand l'OM avait pris 3-1 ici même par Auxerre, en disant si le problème c'est moi, je peux partir. Là, il l'a pas dit de la même manière, mais ça veut quand même dire qu'il va falloir accélérer, trouver une base défensive un peu plus solide. En gros, tant que Ballardi n'est pas là, De Zerbi n'est pas content
et il veut pas jouer à 4.
Exactement, donc Mehdi Benatia aussi peut-être sert de paratonnerre aux résultats de son équipe qui sont quand même catastrophiques. 5 défaites sur les 7 dernières journées. Roberto De Zerbi a encore un petit drapeau italien à son effigie dans le virage d'or du Vélodrome. D'autres entraîneurs n'auraient pas eu tant de sollicitude de la part du public, et pour l'instant ça tient à peu près, mais c'est quand même une équipe qui est complètement à la dérive, parce que tu l'as dit François, la calinothérapie à Monaco, elle était assez étonnante d'ailleurs en conférence de presse et en zone mixte. On avait l'impression que c'était lunaire, coach, parce que Kondogbia nous disait non, nous on s'inquiète pas, tout va bien, on est dans nos petits chaussons, on est troisième, si on gagne tout on sera en Ligue des Champions, mais les performances sur le terrain étaient quand même assez inquiétantes.
J'ai pas rêvé, précise-moi un petit peu les choses. Il a bien déclaré dernièrement qui préférait jouer à 4 défenseurs, 2 arrières
centraux. Oui, que l'objectif c'était 4-3.
Mais c'est dans la saison d'avant ou c'est dans cette saison-là que j'ai vu un coup de composition d'équipe avec 4 défenseurs et j'appelle arrière droit.
Murillo ?
Non. Murillo ?
Garcia.
Non, qui est blessé en ce moment.
Lirola ? Dans l'arrière droit.
Attendez, c'est un jeu. C'est un jeu proposé par coach. Il faut trouver.
Sakai. Luis Enrique.
Un arrière droit à Marseille. Qui a que Balerdi.
Oui.
Ah mais il est pas arrière droit, Balerdi.
C'est pour ça.
Ah d'accord. Ok.
Ah central droit.
J'ai trouvé. Hein. J'ai gagné. Hein.
Mais non. Mais
que j'ai gagné, bravo
j'ai
François. Gagné,
ouais. J'arrivais plus à me rappeler de son nom. C'est bien Balerdi qui a démarré le match arrière droit et qui se fait expulser quand même.
Oui.
Mais quand ?
Ah, contre Lyon.
Contre Lyon.
Ah oui. Non, il était central. C'était déjà une défense à 3 à ce moment-là.
Mais pas du tout.
En début de saison, il jouait avec Brassier, Balerdi dans l'axe. Il a essayé en début de saison une défense à 4, mais ça a assez vite pris l'eau.
Eh bien, tu regarderas. Ouais. Certaines choses, je suis à moitié sûr, parce qu'on a tellement de choses à se rappeler. Mais c'est une organisation à 4 avec Balerdi arrière droit.
Ok.
Donc
en tout cas, je suis content d'avoir trouvé. Je sais pas ce que j'ai gagné.
Et il se fait expulser au bout de 5 minutes avec 2 cartons jaunes. Et les commentaires, et notamment les nôtres, c'était que c'est pas son poste.
Alors, en tout cas.
Et lui, et juste pour terminer, François, juste pour terminer sur ce système au fameux 4 défenseurs, en conférence de presse, il dit que c'est comme ça qu'il veut jouer s'il reste la saison prochaine. Donc, le si est quand même très important, alors qu'on pensait qu'il était là pour 3 ans. On a appris ce matin, en lisant La Provence aussi dans l'interview de Mehdi Benatia, qu'ils ont essayé cet hiver de signer Benoît Badiachil, l'ancien monégasque. Ils ont essayé également Khalidou Koulibaly, l'ancien défenseur de Chelsea et du Napoli. Et ils ont essayé également Yacoub Kivior, qui est désormais titulaire avec Arsenal. Donc ils ont tapé haut, ils n'ont pas pu faire et donc du coup, eh bien, ça empêche soi-disant De Zerbi de jouer avec une ligne de 4 défenseurs.
Bon, on verra en tout cas ce soir, pas de Balerdi, voilà, puisque c'était le jeu du jour. On le refera, coach. Moi, ça j'aime beaucoup.
Et il l'espère pour la semaine prochaine contre Brest.
Voilà, ça c'est une information importante, mais on suivra ce Marseille-Montpellier avec vous, messieurs, ce soir à partir de 21h05. Voilà, le coup d'envoi de ce OM Montpellier, 30e journée, à ne pas rater en direct sur RMC et le débrief dans l'after juste après. Merci Jérôme, merci Aurélien. À tout à l'heure. On va parier sur ce Marseille-Montpellier.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Et puis, petite précision pour les supporters de Monaco et de Strasbourg, toujours 0-0 entre les deux équipes. On retourne à Louis II pour la fin de la rencontre, évidemment, dans un instant. Johan Guillet, que l'on retrouve.
Bonsoir.
Pour ce Marseille-Montpellier, les cotes, Johan.
1-15 seulement la victoire de l'Olympique de Marseille à domicile. Le nul est à 8-50. Montpellier est à 16, pardon. C'est à peu près la même physionomie que pour les deux premiers matchs. C'est-à-dire que c'est dur de trouver des cotes dans ces cas-là. Donc, on se tourne plutôt vers les buteurs. Amine Gouiri est coté à 2-10. Je trouve que c'est une belle cote.
Ah oui.
Ça se tente. Pourquoi c'est une équipe de Montpellier à la dérive qui encaisse beaucoup de buts. Ça se tente largement, je trouve.
Très bien. Est-ce que tu le suis ?
Et pour s'amuser avec donc deux buteurs, Gouiri et Greenwood.
Bien sûr. Si tu fais Gouiri plus Greenwood, c'est 3-20. Ça se tente aussi. Bah, tu fais plus que tripler la mise.
Moi, je pense que c'est pas.
Tu vois une large victoire marseillaise quand même ce soir, coach.
Oui, je vois. Ouais. Plus de 3,5 de buts dans ce match.
Ça sera même pas intéressant. Si tu dis Marseille avec plus de 3,5 buts dans le match, c'est coté seulement à 1,84. On ne double même pas la mise.
Ouais, ah ouais.
Dans ce cas-là, de toute façon,
en plus, on va se tourner vers les buteurs. Très bien. Bah, merci beaucoup, Johan. D'autres paris à retrouver sur rmcsport.fr.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Ah, on va à Saint-Symphorien, Patrick Muller.
L'égalisation à l'instant même du Red Star avec le numéro 7 parisien qui égalise, c'est Damien Durand. Et on va dire que. On va pas dire que c'est une sanction un petit peu logique pour cette équipe du FCMS, mais elle avait un petit peu perdu le fil, une accumulation de déchets techniques, des choix pas forcément judicieux, une pression qui restait constante de la part du Red Star. Bah, ils sont récompensés sur ce but, cette frappe dans un angle croisé donc de Durand qui permet à son équipe d'égaliser un partout désormais entre Metz et le Red Star.
Allez, on retourne à Louis II pour les dernières minutes. Il reste encore un peu de temps pour s'enflammer justement au stade Louis II. Maxime Tilly, il n'y a toujours pas de but entre Monaco et Strasbourg.
Ouais, toujours pas d'enflammade en effet. 17 minutes à jouer, 0-0. Et les Monégasques là, pourquoi pas, qui vont écarter côté gauche. Vanderson, c'est bien fait pour aller chercher Marnès à Cliouche. Il y a Diata qui va dédoubler. Il est entré en jeu, le centre d'Akliouche. La tête d'Elias Benseguir. Un autre nouvel entrant côté Monégasque. Elle est passée assez nettement au-dessus de la cage de Petrovic. Elias Benseguir, c'est pas le plus grand gabarit au milieu de la défense strasbourgeoise, mais c'est pourtant lui qui a su aller chercher et claquer ce ballon de la tête. C'est passé au-dessus de la cage. 16 minutes à jouer. Il y a eu une frappe aussi hein, à noter de Mika Biret tout à l'heure dans un angle un petit peu fermé. Une frappe croisée et qui a été repoussée par Petrovic. Mais pas d'énorme occasion à signaler dans cette rencontre alors qu'on dispute la 74e minute. Match toujours aussi fermé entre Monaco et Strasbourg.
Monaco et Strasbourg 0-0. Donc l'entrée de Benseguir, on l'a vu à la place de Minamino, c'est ça Maxime, ouais. Hein, il me semble.
Et Diata à la place de Caio Henrique. Donc ça fait un nouveau côté gauche, côté monégasque. Et pas plus de changements du côté de Liam Rosenior, qui avait dû faire sortir Abid Diarra, qui était touché à la cheville et qui a été remplacé à Félix Le Maréchal. Mais sinon Nanasi s'échauffe toujours avec ses coéquipiers, avec ses Koumara notamment. Mais pas plus de changements de la part de Liam Rosenior. Et les monégasques qui ont toujours autant la possession du ballon, qui sont là installés dans le camp des Strasbourgeois, mais qui n'arrivent pas à trouver la faille. Et là, encore une fois, il y a eu un petit peu de déchet technique sur cette déviation de Vanderson, qui en plus derrière de frustration va commettre une faute et rendre le ballon aux Alsaciens. Un quart d'heure à jouer, 0-0.
Bon, alors c'était très alléchant sur le papier. On a le droit de dire qu'on est un petit peu déçu par la prestation des deux équipes. On le sait, il y a de l'enjeu évidemment. Mais pour l'instant, eh bien 0-0 entre les deux équipes. On va revenir dans un instant. Vous restez avec nous sur RMC, bien sûr. Il reste encore du temps, il peut encore se passer des choses, évidemment, entre Monaco et Strasbourg, 0-0 et un partout entre Metz et le Red Star. Vous ne raterez rien en restant sur RMC. On revient dans une minute. À tout de suite.
RMC, Intégral Foot.
François Pinet.
20h36, vous écoutez RMC, grande soirée foot ce soir, à ne pas manquer bien sûr ce Marseille-Montpellier à 21h05 en direct en intégralité, suivi de l'after avec Thibaut Jean-Grand bien sûr, le 32-16 pour nous rejoindre et YouTube, vous le savez, pour suivre l'émission en direct. On est en train de suivre Monaco-Strasbourg, le dernier quart d'heure, toujours 0-0 entre les deux équipes, Maxime Tilliette avec Coach Courbis.
Exactement, 13 minutes désormais à jouer dans le temps réglementaire et les 11 000 spectateurs dont 600 supporters strasbourgeois.
C'est pas mal, hein, belle affluence, hein, 11 000, c'est pas mal.
Oui, belle affluence pour ce. Ouais, c'est pas mal pour ce choc. Bon, après on a aussi essayé du côté de l'AS Monaco d'inviter pas mal de licenciés de la région et aussi d'Italie, pas très loin,
bah,
à venir profiter de ce match, voilà, de ce choc de fin de saison.
Ouais, ils sont dégoûtés là.
Ouais, franchement, on pouvait s'attendre au vu des dynamique des deux équipes et du jeu proposé à une rencontre assez ouverte, et finalement ce sera tout l'inverse, du moins jusqu'à présent à la 78e. Et il va y avoir un changement côté strasbourgeois avec Samuel Amo Ameyo qui va rentrer à la place de Dylan Bakoua, qu'on aura beaucoup moins vu en seconde période. 12 minutes à jouer et peut-être que les bancs feront la différence. En effet, je vois notamment Balogun côté monégasque qui semble se préparer pour faire son entrée en jeu. Il est nickel, on va du côté d'Adi Hutter aussi également apporter du sang frais pour cette fin de rencontre. C'est Diego Moreira là qui a le ballon dans les mains et non pas dans les pieds puisqu'il a une touche à effectuer, et c'est derrière Singo qui va écarter le danger. Longue chandelle, ça va revenir dans les pieds des Strasbourgeois. C'est bien fait de la part de Félix Le Maréchal pour se remettre dans le sens du jeu et dans le sens du but, notamment avec Valentine Barco qui est présent côté gauche, qui a eu tout à l'heure deux frappes coup sur coup et qui a contraint Philippe Keun à se coucher pour repousser l'une de ses deux tentatives. La première était passée juste au-dessus de la barre transversale. Mis à part cela, il n'y aura pas eu grand chose à se mettre sous la dent côté strasbourgeois dans cette seconde période. Et Roland, est-ce que les équipes là, les deux équipes entre Monaco et Strasbourg peuvent se contenter de ce point du nul?
C'est l'éternel problème, évidemment, que tu as envie de gagner, puisque en plus avec la victoire à 3 points, ça fait quand même une grosse différence. Mais tu as surtout envie de ne pas perdre.
Eh oui, parce que Monaco,
et là,
pour
les Monégasques qui essayent de pousser. Ouais, le centre de Lamine Camara, ce sera trop fort pour Mika Biret, mais derrière Benseguir va faire l'effort pour pas que ça sorte et que le jeu se poursuive avec Diata. Il va peut-être centrer, non, il va crocheter, repartir sur sa gauche. Le centre, il arrive cette fois-ci au second poteau. Il y a Mbolo, c'est dégagé de la tête par Diego Moreira qui est venu faire le renfort défensif. Singo qui va presser pour essayer de la récupérer. C'est bien fait la part de Moreira là qui s'en sort et qui en plus va obtenir la faute et il s'est fait marcher dessus. Oula, il y a eu un gros duel derrière après coup sur Barco et ça va s'envenimer un petit peu. Beaucoup de tension dans cette fin de match et c'est le capitaine de Lisa Carlia qui vient écarter Vanderson et Lamine Camara qui était remonté comme des pendules. Et il va sortir sa zone technique aussi à 18h pour venir parler. Il va prendre un carton jaune. Pas d'accord, il aurait aimé que l'arbitre assistant signale une faute. Il y a de la tension dans cette fin de match, à défaut de voir de grandes actions. Il y a pas mal de tension et de cartons jaunes sortis par Monsieur Wattelier.
Ouais, alors pour l'instant, Monaco avec ce point du match nul prendrait 2 points d'avance sur Marseille qui joue donc ce soir contre Montpellier et Strasbourg. Serait toujours avec 3 points de retard derrière Monaco à la 5e place, mais Lille, Lyon doivent encore jouer évidemment et Nice également pour cette lutte qui peut être vraiment très intéressante pour les 4 premières places en Ligue 1 en cette fin de championnat. Ce qui te pend au nez, Maxime, c'est qu'on fasse une intégrale Metz Red Star si tu continues parce que pour l'instant le jeu est arrêté, il y a encore des remplacements, donc on va en profiter, on va aller voir Patrick Muller parce qu'il y a eu encore une énorme occasion Messi.
Oui, avec cette tête de Cheikh Tidiane Sabali sur un service de Gauthier Hain et cette tête qui a été boxée en corner par Risser et les Messins qui tentent de remettre du rythme dans cette fin de première période qui se sont un petit peu éteints finalement après avoir ouvert le score très tôt, peut-être trop tôt. En tout cas, ils n'ont pas réussi à enchaîner et ils se battent là sur ce côté droit. Ça va être repoussé par la défense du Red Star et puis côté Messin aussi. Quelques mauvaises gestions de certaines situations défensives, celle notamment qui a apporté et amené ce but égalisateur. Et on se retrouve du coup dans cette situation de score de parité de 1 partout entre ces deux équipes. Et est-ce qu'on reste ensemble un instant, François? Parce que je me permets parce qu'il y a peut-être une situation côté gauche avec Mathieu Hudol, et puis on pourrait aussi parler de cette chasse aux œufs qu'on pourrait organiser, François, pour avoir victorieusement remporté ce jeu de coach tout à l'heure.
Ah, chasse aux œufs, je prends, bien sûr. Bon, on va inventer ça.
Et comme d'habitude, quand on veut trop teaser, ça n'a rien donné, cette situation potentielle pour les Messins. Peut-être sur ce coup-là, avec ce centre, trop écrasé. Centre, hein. Ouais, complètement raté. Et 4 minutes encore à jouer dans le temps réglementaire de cette première période. On a partout, messieurs, entre Metz et
Red Star. C'est très important. Évidemment, il reste du temps, mais Metz, si jamais ils ne réussissent pas à gagner, alors ça ne serait pas acté, mais quasiment le Paris FC et Lorient auraient vraiment la ligne droite vers la Ligue 1, puisqu'ils auraient 3 points d'avance sur les Messins et peut-être plus si Lorient s'impose contre Annecy lundi. Donc, en cas de mauvaise performance, Metz laisserait filer les deux autres équipes vers la Ligue.
Ce serait très difficile, même s'il resterait 3 matchs.
Oui.
Le centre de Magasin, quelle tête! La tête et la claquette, surtout de Petrovic qui remporte son duel sur cette tête de Balogun. Ouais, c'était l'attaquant américain tout juste entré en jeu qui avait été trouvé par Magasa, également entré en jeu il y a quelques instants. Et les Monégasques qui poussent pour aller chercher ces 3 points qui seraient très précieux dans la course à la 2e place. Et là c'est Petrovic qui a claqué ce ballon qui semblait se diriger vers sa barre transversale. En tout cas, il va concéder le corner sur ce coup et il était bien seul, Balogun au second poteau. Les Monégasques en nombre encore une fois dans la surface de réparation et c'est Elias Benseguir qui va s'en charger.
Sa tête elle est quand même à moitié ratée. S'il avait été réussi, ça serait au premier poteau. Quitte même, allez.
Celle-là, elle est pas mal de tête, mais elle passe aussi au-dessus de la part de Lisa Caria qui était montée plus haut que tout le monde au point de pénalty. Bien trouvé par Benseguir, mais encore une fois, ça passe au-dessus de la barre transversale de Petrovic.
Eh oui, mais ça fait plusieurs occasions là, Monaco. Imprécis, c'est vrai qu'il y a eu le bel arrêt de Petrovic, mais j'ai pas eu l'impression que le gardien de Strasbourg ait vraiment été mis en grande difficulté sur cette rencontre. Je sais pas ce que t'en penses, coach.
Non, ça fait 2 têtes qui sont carrément sur lui. Donc, voilà. il a pas.
Pour lui, c'est facile.
Il a pas eu la possibilité de pouvoir faire un exploit, mais c'est toujours pareil. Il manque toujours un petit quelque chose. Une petite tête un peu plus précise, normalement, ça doit faire un but, ça.
Ouais, alors que des changements se préparent et pour l'instant toujours pas le Suédois Nanasi, il n'est pas rentré en jeu, on est d'accord, non, Maxime. Peut-être que ça te surprend sur le
bon. Je dois avoir mauvais goût parce que c'est.
Oui, c'est un joueur que.
Un de mes joueurs préférés.
On a apprécié voir, mais peut-être qu'il est moins bien en ce moment. Ben en tout cas, c'est ce que semble décider Liam Rosenior parce que c'est pas lui qui se prépare sur le bord du terrain. On va suivre cette action.
Non, c'est Ouattara.
Strasbourgeoise, c'est Ouattara, Maxime.
Il a peut-être une petite blessure qui a. Qu'il a pu faire à l'entraînement et donc ils ne veulent pas prendre de risque parce qu'il est quand même talentueux, hein.
Attention, Valentin Barco, il est passé là devant Vanderson. Il va pouvoir centrer avec son pied gauche, second poteau. Le ballon qui va traverser toute la surface. C'est pas fini pour les Strasbourgeois. L'accélération, c'est bien fait. Avec le centre en retrait, la déviation, Emega au second poteau. Et Emmanuel Emega qui profite de ce ballon touché dans un premier temps par Félix Le Maréchal. Le bon travail au départ de l'action d'Amo Aveiro. Et derrière, c'est évidemment l'inévitable Emmanuel Emega à la 85e qui ouvre le score, les quelques pas de danse, évidemment, pour célébrer ce but ô combien important dans la course à la Ligue des Champions, les Strasbourgeois qui provisoirement reviennent à hauteur de la deuxième place du championnat de France de Ligue.
On va vérifier quand même la position, non Maxime, parce qu'il y a eu quelques regards vers l'arbitre assistant pour voir s'il n'y a pas une position de hors-jeu de la part d'Emega. Il y a une sorte de coup de billard là et le ballon est revenu sur l'attaquant strasbourgeois. Pour moi, il est en jeu.
Pas grand chose.
Il est en jeu. Non.
Ouais, coach. Si le.
On va voir qui donne la balle. J'ai l'impression que c'est un Strasbourgeois qui lui remet.
Il y a le but qui a été refusé.
Le but est refusé.
Celui de tout à l'heure, il n'aurait pas été refusé. Alors.
Voilà, on a eu deux buts, mais à chaque fois refusé.
Voilà, vous en réclamiez. Réclamiez les buts, ils sont là. Voilà, à la mi-temps aussi, et à l'échauffement avant le match, on a eu.
Tu pensais qu'il n'y aurait pas le 0-0.
En termes de carton jaune et de buts refusés, on est pas mal. On est sur un des meilleurs matchs de la saison. Pour le reste, c'était assez logique de refuser ce but. C'est totalement logique même, parce qu'Emega, il a profité de sa position de hors-jeu et donc toujours 0-0. Mais ce qui veut dire, coach, que Monaco n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise là, en cette fin de rencontre.
Ça peut les refroidir peut-être même. Là.
Mais bon, après, ils ne sont pas à l'abri non plus de marquer eux-mêmes. Hein.
Ouais, ça c'est sûr.
Parce qu'on a dit qu'il n'y avait pas de 0-0.
Pour l'instant, c'est en proche chemin quand même. Hein.
Ouais, il reste plus beaucoup de temps, mais attention, Balogun qui a trouvé le contrôle, un petit peu long, ça va peut-être. Ouh, il a failli avoir le contre favorable Balogun parce que Petrovic était sorti et en repoussant le ballon, on s'était revenu sur le. Ouais, il y a une position de hors-jeu finalement qui est signalée à contre-temps, mais Balogun était parti se présenter seul face à Petrovic. La sortie de Petrovic dans ses pieds qui avait failli malgré tout quand même profiter à l'attaquant américain de l'AS Monaco, mais le jeu a été arrêté pour un drapeau qui s'est levé. Et là, pour le coup, je suis pas totalement convaincu qu'il y avait hors-jeu. Sur celle-là, mais bon, c'est pas grave. Et donc il reste 3 minutes dans le temps réglementaire. Petrovic qui va pas se faire des amis à Louis II parce qu'il y a déjà eu 2-3 coups de pied arrêtés où il a pris tout son temps et il y a eu pas mal de sifflets qui sont descendus des travées. Et évidemment, c'est le jeu. Et à chaque fois, en plus, sur ses dégagements, il n'est pas aidé par le vent, donc il a du mal à passer la ligne médiane. Et derrière, ça va retomber dans les pieds des Monégasques au second ballon avec notamment Magassa, Diatta et Ben Seguir désormais côté gauche. Et ouais, il va falloir trouver la faille, mais ça semble compliqué face à ces Strasbourgeois qui sont malgré tout bien en place. Le décrochage, là, il y a une sacrée faute de la part d'un bel accrochage du maillot de la part de Guéla. Non, c'est Homo Mabidele, bien sûr. Oui, c'est mieux comme ça, dans le bon ordre, sur Follarin Balogun et les Monégasques qui essayent de mettre du rythme, mais qui n'arrivent pas à créer le décalage dans cette défense strasbourgeoise qui coulisse bien en cette fin de rencontre.
Les dernières secondes de la première période entre Metz et le Red Star, Patrick Müller.
Avec ce carton jaune pour Gauthier Hein, là, qui aurait pu espérer peut-être obtenir un pénalty, mais il a été sanctionné par Monsieur Buquet et il n'y a pas trop de discussion. Et ce sont les dernières secondes, c'est même la mi-temps à l'instant même entre ces deux équipes, un partout entre le FC Metz et le Red Star. Et bien évidemment, François, tu l'as dit, c'est la mauvaise opération comptable pour les Messins qui sont au moment où on parle à 3 points de la deuxième place, même si, mais il restera 3 matchs et surtout une deuxième période.
Et il reste la deuxième période, oui, coach.
Non, je dis absolument, il reste 3 matchs, mais il reste.
Oui, c'est pas fini.
La deuxième période.
Voilà, Patrick Müller que l'on retrouvera en deuxième période avec Thibaut Jean-Grande pour la suite de cette rencontre entre Metz et le Red Star. Merci beaucoup, Patrick. À tout à l'heure. Monaco-Strasbourg, les dernières minutes. On va suivre évidemment de très près ce qu'il se passe à Louis II. Ça va avoir un impact sur la suite du championnat. Monaco qui ira au Havre et à Saint-Etienne avant de recevoir Lyon et qui ira à Lens, alors que Strasbourg recevra Saint-Etienne, le PSG ira à Angers et recevra le Havre, Maxime Tilliette.
Ils ont du mal à se repousser là, les Strasbourgeois, et ils vont concéder un corner. Il y avait eu une frappe de Ben Seguir trop écrasée mais qui a été difficilement repoussée. Et Guéla Doué derrière a voulu dégager, mais avec le vent, le ballon est reparti dans son dos, poussé en corner. Et donc on va pouvoir effectuer les changements avec notamment Ouattara côté Strasbourg.
Nice a égalisé sur corner à la dernière minute.
Exactement, le week-end dernier avec Ndaye Chimié au bout du temps additionnel qui allait arracher un point du nul qui sera précieux dans cette course à la Coupe d'Europe. Et donc le changement, la sortie de Barco, l'entrée de Ouattara côté strasbourgeois et Adjuteur qui fait entrer son super sub Georges Ileni Kena, 6 buts cette saison, tous en sortie du banc. Donc il va faire le changement, mais après le corner, on va d'abord le frapper avec Elias Benseguir au premier poteau. Il y a du monde, il y a Kliouch, c'est dégagé par Omo Bamidele, le ballon qui va arriver vers Anderson au second poteau, 1 contre 1, il va tenter de centrer, ça arrive en retrait, Zakaria qui se retourne, la frappe, ouh, ça retombe sur le petit filet extérieur juste derrière la barre transversale. Petrovic s'est jeté, il a dû avoir une petite frayeur sur ce coup, et on va atteindre la 90e minute, toujours 0-0. Emi Kabiret va donc céder sa place à Ileni Kena pour les dernières minutes de cette rencontre et le temps additionnel qui devrait bientôt être connu ici au Stade Louis II.
Et Zakaria, effectivement, lui, voilà, il est partout, absolument partout, que ça soit en défense. Là, c'est lui également qui a cette action. On le disait en début de rencontre, hein, mais ça se confirme sur ce qu'on voit. Le capitaine de Monaco, il est indispensable à cette équipe pour cette fin de saison.
Ah oui, il donne parfois l'impression d'être un adulte qui joue avec des enfants. Honnêtement, c'est parfois assez impressionnant sur ses accélérations. Après, souvent de bons contrôles orientés. Il est vraiment en très très grande forme, le capitaine suisse. Et on disait tout à l'heure en première période, il y a un Monaco avec et sans Denis Zakaria, plus de 2 points par match engrangés lorsqu'il est sur la pelouse et seulement 1 point pris. Ouais,
ça fait un peu City avec Rodri.
Oui, un ballon d'or en moins pour Zakaria.
Des joueurs en plein cœur de l'organisation, au carrefour pratiquement de tout. Et c'est sûr que c'est pas facile à en avoir deux comme ça.
Ouais, c'est déjà certain. Un, c'est et donc il y aura 4 minutes
qui n'en auront pas du tout.
Mais oui, d'accord, justement, il n'y en a qu'un, quand il n'est pas là, ça fait un gros
sûr.
Coup.
C'est sûr.
4 minutes de temps additionnel, messieurs, déjà une de passée. Et là, ce sont les Strasbourgeois qui ont le ballon. Attention, on n'est peut-être pas assez appuyé cette passe en retrait. Kliouch qui va faire l'effort, mais c'est Petrovic qui va dégager le ballon et le rendre directement à Wilfried Tsingo qui essaye de mettre du rythme pour aller chercher Ileni Kena. Et le ballon est intercepté par Mamadou Sarr qui a bien jailli devant Ileni Kena. Mamadou Sarr retrouve et il va passer la ligne Nedjan, gagner un peu de champ pour pourquoi pas aller se créer une dernière situation pour les Strasbourgeois et faire le coup du siècle dans cette fin de saison pour eux. Faire le hold-up, même si tout à l'heure ils ont pensé eux aussi ouvrir le score, un but qui a été refusé fort logiquement pour une position de hors-jeu. Les Strasbourgeois qui essayent de passer par le côté droit désormais, on retourne à l'intérieur, mais c'est intercepté par Magassa qui essaie de se projeter, de trouver une solution vers l'avant. Il y a le bon repli défensif d'Ismaël Doucouré, c'est bien fait, et Guéladoué derrière qui va pouvoir trouver le Maréchal au cœur du jeu. Le Maréchal qui se retourne, qui va accélérer, qui va trouver Ouattara qui va peut-être frapper, non, il va préférer crocheter sur son pied droit, la frappe, elle est trop écrasée. Elle est facilement captée par Philippe Keun qui essaye lui aussi de mettre du rythme, qui demande des solutions, mais il n'en a pas. Le bon repli des Strasbourgeois qui empêche le portier monégasque de jouer rapidement. Ce sera finalement Zakaria qui va être trouvé, Vanderson, et Vanderson, sa passe sera contrée. Ce sera une touche juste devant les bancs de touche, le banc notamment de Liam Rosenior. La touche est effectuée et là, c'est une fausse touche. Elle a mal été effectuée, ballon rendu. Non, il estime c'est pas une fausse touche. Il estime que la touche n'a pas été faite au bon endroit, monsieur Ouattelier.
Ah, il est poitille.
Attention, bah, il a... attention à l'effet papillon, parce que là, si sur une touche perdue et rendue comme ça, un ballon bêtement rendu aux Strasbourgeois dans cette quasi dernière minute. Il reste 1 minute 20 dans le temps additionnel. 0-0 entre Monaco et Strasbourg, et le ballon est dans les pieds des Alsaciens désormais avec côté droit. Il y a Guéladoué qui va pouvoir centrer, c'est chose faite, c'est dégagé de la tête par Wilfried Tsingo. À la retombée, il y a Ileni Kena, mais au second ballon, c'est un Strasbourgeois encore une fois qui est présent. On va écarter côté gauche de Moreira qui fait l'effort pour éviter que le ballon sorte en touche. Moreira au poteau de corner qui va essayer de repiquer à l'intérieur. Il y a Ouattara derrière lui, les Strasbourgeois, tous les joueurs de champ sont dans le camp des Monégasques pour essayer d'arracher 3 points très précieux. On va trouver le Maréchal lancé dans la surface, mais c'est intercepté par Wilfried Tsingo et les Monégasques qui n'arrivent pas à ressortir de leur camp, qui dégage loin devant. Mais ça revient inlassablement, les vagues strasbourgeoises dans cette fin de rencontre. Et en plus, il y aura une faute qui va peut-être dernier le dernier coup franc pour les Strasbourgeois. Ah, la faute, elle est quasiment au niveau du rond central. Elle est dans l'axe, plein axe face au but. Mais ça peut être l'occasion de mettre un ballon dans la surface de réparation et de semer la pagaille dans ces dernières secondes. 20 secondes très exactement dans ce temps additionnel. 0-0 entre Monaco et Strasbourg. Et la dernière cartouche semble être pour les Strasbourgeois avec ce coup franc que semble vouloir frapper à la fois Félix Le Maréchal et également Diego Moreira. Un pied droit, un pied gauche. Ce sera Moreira qui va s'en charger avec son pied gauche. On a fait remonter évidemment les grands. Homo Bami Dele 1m88, Mamadou Sarr est 1m94. C'est lui qui est visé justement au second poteau. Le ballon qui traîne, c'est mal dégagé. Ça va revenir encore une fois à la chandelle. C'est dégagé cette fois-ci de la tête par Zakaria. Peut-être un dernier ballon de contre. Et non, ce sera tout, c'est terminé. 0-0 entre Monaco et Strasbourg. Deux concurrents dans la course à la Ligue des Champions qui vont partager les points. Un point pour chacun et c'est peut-être pas une très bonne opération, aussi bien pour les Monégasques que les Strasbourgeois.
Attends Maxime, il y a quand même tu viens de dire partager les points, c'est ça, coach?
Ah oui, pardon, attention. En effet, c'est pas trois points qui sont partagés.
Voilà.
Ouais, je connais mon coach.
Mais
par contre, ce qu'on peut dire, c'est que toutes les deux équipes perdent deux points.
Ah toi tu trouves que ce sont deux points de perdu? Parce que moi j'ai l'impression qu'ils sont bien satisfaits là.
Et quand tu as la possibilité d'en gagner trois, oui. Et que tu n'en as qu'un, mais tu en perds deux.
Je suis d'accord, mais on peut aussi considérer que Strasbourg a gagné par exemple un point en allant faire match nul.
On le voit déjà dans leur comportement, puisqu'ils ont à la fin ils jouent le temps, ouais, ils espèrent que le match se termine. Donc tu te dis que Strasbourg a préféré avoir ce point plutôt que Monaco. Et Monaco, ils perdent deux points, mais là ça fait, je crois, 6 victoires, 1 nul.
C'est une fin de série pour Monaco.
Tous les 7 matchs, 6 victoires, 1 nul, c'est pas mal du tout.
Après, ils n'ont que 2 points d'avance sur Marseille, coach. Marseille qui va jouer tout à l'heure. Donc, bon, tu le disais, un deuxième ou troisième, c'est la Ligue des Champions quand même. Mais Marseille peut être deuxième ce soir en cas de victoire face à Montpellier.
Absolument. On va suivre ça avec beaucoup de curiosité.
Merci beaucoup coach, merci Maxime, à très bientôt,
à vous, les amis.
Bonne soirée à toi. Ciao. On te laisse recueillir évidemment les réactions des coachs et des joueurs de cette partie. Dans un instant, la deuxième période entre Metz et le Red Star, un but partout pour l'instant en Ligue 2. Et puis surtout, ne manquez pas 21h05, le coup d'envoi de Marseille-Montpellier à suivre en direct en intégralité dans l'After Live avec Thibaut Jean-Grand. Très très belle soirée sur RMC, à bientôt.